dernière journée de discussion sur l'animal, et cette manifestation est inscrite dans une manifestation plus large organisée en partenariat avec l'Université de Poitiers, en particulier l'Action culturelle de l'Université de Poitiers. Isabelle Lamotte, directrice, vous dit, donne le bonjour, elle ne peut pas être là aujourd'hui, elle nous a souhaité une bonne journée. C'est un partenariat vraiment formidable et on est déjà en train de penser à une prochaine thématique. À chaque fois, on décline une thématique, à chacun son corps, à chacun son paysage, et là, c'est à chacun son animal. Les dernières journées qui ont eu lieu feront l'objet d'actes. On va voir des actes des deux dernières journées qui vont paraître aux éditions du PUR, coédition Espace Mendès France, grâce à la participation de nos amis ici présents. Je voulais remercier particulièrement Georges Chapoutier d'être toujours avec nous pour cette aventure animale qui n'est pas... au départ, c'était un sujet qui n'était pas facile à traiter pour des raisons aussi, disons, émotionnelles. On a chacun, au tréfonds de nous-mêmes, un chagrin d'animal. Et je pense que la journée d'aujourd'hui ne va pas être non plus facile. Mais il me semble, avec nos collègues de l'école de l'ADN, nos directeurs scientifiques Yves Sénatiempo, que cette journée est nécessaire et qu'elle s'inscrit tout à fait dans la mission de l'Espace Mendès France, à savoir avoir la possibilité d'avoir des débats en dehors des cercles universitaires. Il est possible en effet qu'il y ait eu d'autres journées d'études sur cette thématique, mais bon, dans d'autres centres tels que l'INRA, etc. Mais en face d'un grand public, je pense que ça se fait très très rarement. Donc je suis contente et en même temps un peu anxieuse, je vous l'avoue tout de suite, de cette journée, parce que c'est un thème qui n'est pas facile, que j'ai voulu. Donc on va aller jusqu'au bout puisqu'on l'a voulu ensemble, en équipe. Et je voulais remercier Yves Sénatiempo de son soutien aussi et tous nos amis ici présents avec lesquels nous avons échangé par mail sur justement notre partage de cette thématique qui s'appelle l'homme, l'animal et la science, mais c'est sur l'expérimentation animale. Donc j'espère aussi qu'il y aura des choses gaies dans cette journée, je le souhaite infiniment. Et donc je remercie l'école de l'ADN qui fait partie aussi de nos partenaires pour ces rencontres du vivant, et on continue tous les ans. Hein. Voilà, donc je vous présente Laurent Fillon, il s'intime pas notre directeur scientifique, et puis M. Berrier. Je n'aurais pas mis de présentation, là, parce qu'en fait, ils sont tellement connus dans la maison. Voilà. Donc, je vous passe la parole et à tout à l'heure.
Merci, Anne. Donc, je dois d'abord excuser Didier Moreau, directeur de la maison, et Mario Cotron, président de l'association Espace Mendès France, qui sont appelés ailleurs et qui ne pourront pas venir, sauf que Didier Moreau nous rejoindra dans la journée. Il est en déplacement sur le territoire. Ça m'amène à vous dire juste un tout petit mot, c'est que l'Espace Mendès France aujourd'hui a tellement d'activités que les personnels, les membres d'associations sont sans arrêt en train de se partager entre Poitiers et l'extérieur. Je rappelle aussi que nous touchons environ 100 000 personnes par an, donc il faut aller chercher... entre guillemets, le public là où il est, et aujourd'hui nous avons des missions multiples. Donc parmi ces missions, dans le cadre de ces missions multiples, nous montons des journées d'études, mais je répète, ça fait partie ça, des activités qui sont devenues classiques, sachant que si vous vous promenez dans la maison, vous allez voir des expositions, vous avez entendu des enfants arriver en visite d'exposition, etc. Donc je n'ai pas de temps, un temps suffisant pour vous décrire tout ce que l'on fait. Je pense que vous aurez l'occasion, pour ceux qui sont extérieurs, de le voir dans la journée. En tout cas, on se fera un plaisir de vous décrire tout cela lors des pauses, lors des repas. D'autant que la journée est très longue. Et ça, c'est une caractéristique aujourd'hui d'avoir découpé la journée en trois temps. La journée d'études, on va dire, qu'on va qualifier classique, qui va s'achever aux alentours de 16h30. Nous enchaînerons par une conférence sur le web ou un webinaire qui sera délivré par Georges Chapoutier, que je remercie d'avoir accepté de se livrer à cet exercice. C'est un exercice un peu nouveau pour la maison et nous sommes encore en phase d'expérimentation, mais on s'améliore de jour en jour. Alors le webinaire... est peu connu encore dans le grand public. Néanmoins, je vous incite, si vous êtes disponible, à assister au webinaire, soit chez vous devant un ordinateur si vous devez vous absenter, soit dans la salle, le mini-studio que l'on a aménagé, qui est derrière ce mur, en fait. Donc, mais on ne peut pas y accéder de cette salle. On doit faire un tour par une autre porte. Et nous avons une douzaine de places possibles pour y assister en direct. Et si vous souhaitez y venir, vous serez les bienvenus. Donc ça, c'est à 17h. Nous aurons une nouvelle pause à 18h et nous enchaînons par une conférence à 20h30 qui sera délivrée par le député du Rhône, Jean-Louis Touraine, qui joue un rôle très important dans le cadre de l'évolution des lois, en particulier sur l'expérimentation animale et la mise en place d'alternatives à l'expérimentation animale. Donc quand je disais que c'est long, ben, effectivement, ça va durer jusqu'à 22h30, 23h éventuellement. Et nous serons sans doute un peu épuisés. Mais néanmoins, je crois que c'était très bien de pouvoir mener tout cela de front. En termes d'effectifs, on sera rejoint, je pense, par d'autres étudiants un peu plus tard, des enseignants aussi, parce qu'il y a des cours qui se déroulent jusqu'à 10 heures. Donc il va y avoir sans doute quelques mouvements. Je remercie les étudiants qui sont venus ce matin et je souhaite qu'ils puissent rester un maximum de temps dans la journée. Parce que, en tant qu'étudiant en biologie, vous serez confronté de toute façon à la problématique que nous allons aborder aujourd'hui. Et comme tous ceux qui ont eu une carrière en biologie, et je vous la souhaite très longue, personnellement, j'ai passé 40 ans au service de la biologie et je me suis trouvé confronté à cette problématique-là. Et je vous garantis que la réponse n'est pas simple. La seule satisfaction que je puisse exprimer à la fin de ma carrière, c'est d'avoir vu quand même évoluer les pratiques de façon énorme. Vous ne pouvez pas imaginer la façon dont nous travaillons il y a 40 ans. Je ne l'évoquerai même pas ici, j'aurais honte de le dire, mais réellement. Ceci dit, ça touche tout le monde, ça touche le citoyen, ça touche d'autres spécialités scientifiques. Christian Verrier, qui est chimiste, impliqué dans la mise au point d'un médicament, par exemple, eh bien ça touche aussi les chimistes. Donc personne, je crois, n'est à l'abri de cette problématique. En tout cas, je suis ravi que nous ayons monté cette manifestation en commun avec l'école de l'ADN. Il y a eu la volonté de certaines personnes, le conseil scientifique de l'école de l'ADN qui était commun avec celui de Mendès France. Tout ça a abouti à ce magnifique programme. Et donc je vais passer la parole à Christian Berrier pour dire quelques mots sur l'école de l'ADN. Merci beaucoup.
Merci. Bien, l'école de l'ADN en Poitou-Charentes a été créée en 2006 et elle a pour mission d'initier, d'informer, de proposer des débats autour des sciences de la vie à des publics surtout scolaires mais aussi citoyens qui ont répondu depuis 4 ans de façon massive et au-delà de ce qu'on pouvait espérer puisque nous sommes actuellement proches des 15 000 participants aux ateliers qui sont proposés par l'école de l'ADN, ce qui est un succès absolument phénoménal et reconnu par tous. Et je remercie, j'en profite pour remercier Laurent Fillon et Yves Senatiempo qui sont à l'origine de cette création et qui ont eu cette vision et qui s'avère tout à fait pertinente. Par le biais de ces ateliers, nous espérons avoir pu donner l'envie aux jeunes des collèges et des lycées de faire des études de sciences, puisqu'on sait que ces disciplines sont un petit peu délaissées en ce moment, même parfois beaucoup délaissées. Et donc, en démystifiant les sciences de la vie et leurs applications, on pense que ça peut attirer des jeunes vers ces carrières-là. C'est donc tout naturellement que l'école de l'ADN s'est associée à cette manifestation d'aujourd'hui à l'espace Mendès France, qui accueille l'école de l'ADN dans ses murs, pour cette quatrième session des rencontres du vivant, comme l'a dit Anne, intitulée « À chacun son animal », hein, c'était le titre générique du cycle, organisé en partenariat avec l'Université de Poitiers. Voilà, je vais laisser la parole à Laurent Fillon, qui est directeur de l'école, qui va nous donner quelques précisions sur...
Anne me fait signe que j'ai 2 minutes, donc je vais faire vite. Donc, comme l'a dit Christian, à l'école de l'ANN, avant tout, donc, on propose des ateliers scientifiques. Puis en 2007, on a initié en fait, ces journées d'études, hein, donc, en collaboration avec l'Espace Mendès France, avec l'idée à chaque fois de rassembler des spécialistes, c'est vraiment enfin, d'horizons divers. Hein, ce n'est pas des journées scientifiques et techniques, mais c'est vraiment l'idée d'avoir hein, des intervenants hein, d'horizons très divers. Et puis sur des questions de société, hein, sur des questions que la société se pose hein, par rapport à la recherche, par rapport au développement de nouvelles technologies, Et sous le titre « L'homme, l'animal et la science », finalement, c'est un peu le sous-titre là qui nous intéresse, c'est-à-dire l'expérimentation animale, c'est ce dont on va discuter aujourd'hui, hein, si on regarde. Et avec cette volonté, hein, comme le disait Georges Chapoutier dans un petit mot de présentation, de concilier une certaine pratique scientifique avec certaines idées de la morale, et puis voir aujourd'hui donc, cette prise en compte, hein, de l'animal qui a évolué quand même, hein, sur ces 40 dernières années. Quand je parle d'horizon très large, on va démarrer, hein, si vous regardez le programme, sur les aspects historiques, juridiques, et puis la volonté, c'est que ça soit aussi un moment d'échange, voilà, entre nous. Donc, si vous prenez la suite, hein, il y aura deux tables rondes, donc où là, vraiment, donc, avec l'idée qu'on puisse chacun un petit peu apporter sa contribution à cette journée. Une première, c'est les webinaires, parce que donc, ça permet aussi d'aller vraiment ailleurs. Il y a aujourd'hui, je crois, il y avait déjà 70 inscrits. Oui,
70
ce matin,
inscrits, ce qui était un record. Donc, merci, Georges.
Provisoire, voilà. Ça, donc, c'est vrai que c'est une autre ouverture à ces journées. Et puis, en parlant d'ouverture, ce soir, avec la venue de Jean-Louis Touraine, on ouvrira le débat un peu sur l'Europe, puisque Jean-Louis Touraine, donc, qui est l'auteur d'un rapport en fait, hein, sur l'expérimentation animale en Europe, avec quelle alternative, quelle éthique et quelle gouvernance. Donc ça sera ce soir l'occasion d'ouvrir encore un peu plus le débat. Je vais laisser la parole à Christian, puisqu'on a pris, on a presque rattrapé 5 minutes sur le retard. Donc, on commence presque à l'heure.
Bien. Alors on va enchaîner très rapidement. Donc j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter Éric Baraté. Voilà. Éric Baraté est professeur d'université en histoire contemporaine. Il enseigne à l'université de Lyon 3 Jean Moulin. Il travaille sur l'histoire des relations entre les hommes et les animaux, principalement aux époques modernes, 16e, 18e siècle, et contemporaines, 19e, 21e siècle. Et après avoir étudié l'histoire des représentations humaines des animaux, puis l'histoire de la condition animale, il entreprend de construire une histoire du côté de l'animal, en liant histoire et éthologie. Alors, il est l'auteur de nombreux ouvrages, un certain nombre de livres. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais un livre sur la corrida, un livre qui s'intitule « L'Église et l'animal », « L'animal domestique »,« Zoo, histoire des jardins zoologiques en Occident », et puis un grand nombre d'articles dans des revues prestigieuses, revues d'histoire moderne et contemporaine, revues d'histoire des sciences, revues de l'histoire des religions. Donc, je ne vais pas décliner tous ces travaux. Mais sachez que nous avons Éric Baraté, un spécialiste. Donc je vais lui laisser la parole. Il va nous parler de l'histoire de l'expérimentation animale. Merci.
Merci. Alors, comme on m'a confié une mission presque impossible, hein, parler de l'histoire de l'expérimentation animale, je me suis concentré sur le cœur de la question qui est celui de la vivisection. Et pour voir un peu comment ça a évolué, à la fois dans la pratique, les arguments et les oppositions, en gros jusqu'au 19e siècle. Je passerai très vite sur le 20e siècle, puisque ça sera ensuite le cœur du débat. Alors d'abord, les pratiques. Les premiers signes d'expérimentation sont relativement anciens. On les voit apparaître en Égypte ou en Grèce. Le premier expérimentateur serait Alcméon de Crotone, au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui aurait sectionné les nerfs optiques d'un chien pour vérifier que ça entraînait bien la cécité de l'animal et qui lui a permis de conclure que le cerveau était bien le siège des sensations et non le cœur, ce qui était une grande question à l'époque, quel est l'organe le plus important. Alors là, ça reste quand même très ponctuel. On voit vraiment apparaître l'expérimentation, la vivisection, plus que l'expérimentation, vers 300 avant Jésus-Christ, à Alexandrie. Ce sont des médecins d'Alexandrie qui lancent la pratique, notamment deux personnages qui sont très connus à l'époque, Hérophile de Chalcédoine, et puis surtout Érystrate de Chéos. Donc, qui lancent des travaux sur la physiologie et sur les maladies pathologiques des organes. Et ils font de la vivisection sur hommes et sur animaux, je vous en reparlerai après. Et Érystrate, notamment, travaille sur la circulation du sang et parallèlement développe une anatomie, une physiologie théorique basée sur le concept de la machine. Et ça, c'est quelque chose qu'on va revoir tout le temps. C'est le point commun de cette histoire, c'est que les gens qui lancent l'expérimentation ont pour grille de lecture l'animal-machine ou le corps-machine en général. Alors là, cette grille de lecture, elle vient en fait du modèle des machines pneumatiques des ingénieurs alexandrins de l'époque, notamment les pompes. Et c'est sur ce modèle-là que Érystrate développe sa lecture théorique des organes, enfin des êtres vivants. Bon, cette période des médecins d'Alexandrie est relativement courte, puisqu'elle n'est pas poursuivie, alors pour des raisons que je vous expliquerai plus tard, hein, en troisième partie. Et à l'époque romaine, on a en fait des expérimentations, mais très ponctuelles, et ça vient de l'éclatement de la médecine romaine en plusieurs écoles. Il y a en gros trois grandes écoles. Il y a les empiriques, qui observent les malades et qui considèrent que chaque malade est un cas particulier. Donc aller chercher chez un autre l'origine des troubles pathologiques chez un chien ou même chez un homme, l'origine des troubles pathologiques pour un patient particulier ne sert à rien. Il y a aussi les méthodiques. Alors les méthodiques qui partent des phénomènes pathologiques et qui, par raisonnement, arrivent aux indications thérapeutiques. Mais uniquement par raisonnement, ils ne cherchent pas ce qu'on pourrait appeler les causes cachées. On doit, par le raisonnement, trouver, si on a bien décrit la maladie, on doit trouver le traitement. Et puis la troisième école, ce sont les dogmatiques, c'est-à-dire qui, en fait, lient l'approche théorique. Le vrai savoir, c'est le raisonnement, un peu comme l'école méthodique, mais qui ajoute l'expérimentation à la fois pour vérifier la validité des traitements, et puis donc en aval et en amont l'expérimentation pour comprendre le rôle des organes. Et là, on trouve le médecin le plus célèbre de l'Antiquité, qui est Galien, du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc il y a quand même 500 ans d'écart entre les médecins d'Alexandrie et Galien. Ça ne se passe pas très rapidement. Galien, qui est donc adepte d'une méthode, d'une médecine un peu éclectique, où il alterne expérience et raisonnement. Il pense que le médecin est autant philosophe que médecin. Et il doit, par le raisonnement, s'occuper de la maladie, s'occuper du traitement. Et l'expérience est là donc pour vérifier les remèdes ou pour comprendre le fonctionnement des organes. Alors lui va beaucoup disséquer, à la fois un peu sur les hommes, plutôt des morts, et puis beaucoup sur les animaux vivants. Alors, comme le dit Claude Bernard lorsqu'il parle de Galien, c'est ce qu'il appelle des expériences perturbatrices, c'est-à-dire qui consistent à blesser, à détruire ou à enlever une partie du corps pour juger de l'usage de cet organe par le trouble qui est produit. Si on abîme cet organe, qu'est-ce qui se passe? Donc on arrive comme ça, où on croit pouvoir comprendre le fonctionnement de cet organe. Alors, l'œuvre de Galien domine jusqu'au XVIIe siècle, mais ses réalisations expérimentales ne sont pas reproduites. Elles tombent dans l'oubli. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'il a bien expérimenté et qu'il n'y a pas besoin de refaire ses expérimentations. Donc, on s'en tient aux théories de Galien, et à tel point que le traité de vivisection de Galien a été perdu au Moyen-Âge. Il n'a pas été recopié. On ne le jugeait pas utile. De la même manière que les travaux d'Érystrate de Chéos ont été perdus parce que on pensait qu'il n'y avait pas besoin de refaire les expérimentations. Et on arrive en fait, ça, on va rester dans une période de non-expérimentation, en gros de Galien jusqu'au XVIe siècle. Et au XVIe siècle, on revient à l'expérimentation pour des raisons culturel, c'est-à-dire que c'est l'époque où l'imprimerie permet de mieux diffuser les auteurs antiques. On connaît beaucoup mieux les auteurs de l'Antiquité qu'au Moyen-Âge, et en particulier Galien. Et on a l'idée, au milieu du XVIe siècle, de refaire des expérimentations pour comprendre Galien. Il ne s'agit pas de le contredire à l'époque, mais simplement de le comprendre. Pour comprendre ce qu'il raconte, il faut refaire les expérimentations. Et en refaisant ces expérimentations, on s'aperçoit, enfin les médecins de l'époque s'aperçoivent qu'il y a des erreurs. Donc, il faut se mettre à vérifier Galien. Et ça, ça sera l'objectif de la fin du XVIe siècle, du début du XVIIe siècle. On refait pour vérifier. Et au milieu du XVIIe siècle, c'est l'étape supplémentaire, on refait quasiment pour contredire. On s'aperçoit que les erreurs sont telles qu'il faut en fait repartir à zéro. C'est la table rase cartésienne. Il faut repartir à zéro et donc il faut relancer ces expérimentations. Alors cette relance des expérimentations se fait à nouveau dans le cadre de l'animal-machine. Cette idée de l'animal-machine qui n'est pas inventée par Descartes, qu'on voit apparaître à la fin du XVIe siècle, qui est largement employée par Harvey vers 1620. Harvey qui travaille beaucoup sur la circulation du sang et qui multiplie les vivisections et qui va être donc non pas inventé mais théorisé par Descartes. Et cette idée de l'animal-machine, évidemment, qui permet, qui justifie le fait qu'on aille voir chez un animal pour comprendre ce qui se passe ailleurs, chez d'autres animaux ou dans d'autres vivants. Alors là, on connaît bien les vivisections qui sont pratiquées. Il y a en gros trois domaines. Il y a d'abord la circulation du sang, qui est lancée donc par Harvey vers 1620, et qui est c'est la grande mode de la vivisection, si on peut parler ainsi, au XVIIe siècle, notamment dans les milieux jansénistes à Port-Royal. On a des textes qui nous disent qu'on cloue les chiens contre des planches et puis on les ouvre vivants pour voir comment ça circule. On travaille aussi sur la respiration, qui est une autre circulation, et on travaille avec le modèle des pompes à air, là aussi. Et on retrouve donc un parallélisme très net avec la médecine d'Alexandrie. Deuxième type de vivisection, c'est le fonctionnement des nerfs et des muscles. Ça, c'est la grande question du XVIIIe siècle. Fonctionnement des nerfs et des muscles, avec les expériences au XVIIIe siècle d'Haller, qui travaille sur l'irritabilité, la sensibilité des nerfs, la contractibilité des muscles. Il y a aussi des expériences de Galvani, de Volta, sur l'électricité animale. Et là, c'est la grande époque de la vivisection et du travail sur les grenouilles, qui est l'animal favori, si on peut dire, des laboratoires du XVIIIe siècle, qui n'est pas un animal nouveau, parce qu'en fait, la grenouille était l'animal de prédilection dans la médecine médiévale, voire dans la magie, dans la sorcellerie médiévale. Et on peut dire que c'était déjà un animal de laboratoire, la grenouille. Ce n'est pas une invention du XVIIIe siècle. Alors, on se focalise beaucoup sur la grenouille. On n'oublie pas le chien, je vais vous en parler, mais beaucoup sur la grenouille au XVIIIe siècle, en grande partie parce qu'elle est facile à se procurer et puis parce qu'elle ne crie pas. Et ça ameute moins les voisins. Or, cette question d'ameuter les voisins, je vous en parlerai avec Zine, c'était quand même un problème à l'époque. Troisième exemple, c'est le cerveau. Là, le cerveau, les travaux sont encore mieux connus. Jusqu'au XVIe siècle, on s'appuie sur Galien. Et puis, donc, à partir du milieu du XVIe siècle, à partir de Vésale, on commence à considérer que les facultés de l'âme, la pensée, le raisonnement, etc., la conscience, ne résident pas dans le cerveau, mais résident dans l'âme. J'ai fait le lapsus, les facultés de raisonnement, de conscience ne résident pas dans le cerveau, mais résident dans l'âme. Et le cerveau, donc, ne devient plus qu'un pourvoyeur de l'esprit en sensation et en image. Alors, la grande question qui va beaucoup intéresser les scientifiques jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est comment le cerveau transmet les sensations, les images à l'âme, qui, elle, a les opérations donc, de pensée, de raisonnement. D'où des travaux donc, en matière de physiologie et des travaux de vivisection, parce que très vite, dès le XVIe siècle, on considère que le travail sur les dissections ne suffit pas. Le cerveau mort ne peut pas renseigner là-dessus. Et donc, on va passer à l'animal vivant. Ça commence fin XVIe, début XVIIe siècle. Et c'est surtout théorisé par Stenon. Stenon qui publie en 1669 un ouvrage qui s'appelle « Discours sur l'anatomie du cerveau » et qui on ne peut pas dire lance, mais qui théorise et qui justifie donc les vivisections sur l'animal. Et le but, donc, c'est de voir comment ça marche en altérant certaines parties du cerveau. Alors, on a comme ça toute une série de recherches. Alors, elles ne sont pas énormes. on a à peu près une douzaine de recherches entre le milieu du XVIIe et la fin du XVIIIe siècle. Hein. Ce qui montre bien que les vivisections à l'époque, on en parle, mais elles sont quand même relativement peu nombreuses. Alors, on s'attaque donc dans ces recherches, on s'attaque au cerveau par ablation, excision, irritation, application de drogue, etc., etc., mais avec deux caractéristiques. Première caractéristique, il n'y a aucune relation avec la pratique médicale. Ça ne vient pas du refus de reconnaître le rôle des altérations cérébrales dans les maladies de l'esprit. Ça vient plutôt du fait qu'on a des théories de ces maladies de l'esprit, que ces théories expliquent ou on croit qu'elles expliquent correctement ces maladies, et donc il n'y a pas besoin d'aller vérifier. Donc du côté de la médecine, ce n'est pas du tout utilisé. Et puis deuxième caractéristique de ces recherches, ce sont des recherches très dispersées, non cumulatives, qui se répètent avec un retour cyclique aux mêmes notions et qui ne donnent pas de résultats pouvant être validés, pouvant être repris. C'est ce qui fait qu'on a une espèce de balbutiement hein, de ces vivisections. Alors, il y a trois types d'expériences qui sont pratiquées. Il y a les expériences pour voir. On fait l'ablation de telle ou telle partie, mais sans hypothèse préalable, sans conclusion particulière. On s'en tient surtout à regarder les réactions de l'animal. Ce sont les expériences célèbres de Zinn, Z-I-2-N, qui passe une thèse de médecine en 1749 sous la direction d'Allaire et qui fait toute une 12 expériences sur les chiens. Et je vous en cite une. Je perçais un soir à 7 heures du même instrument la tête d'un jeune chien de la droite à la gauche. Cet animal, d'abord un peu surpris du coup, revint à lui quelques heures après et les voisins l'entendirent japper toute la nuit. Vous voyez ce que je vous disais sur la grenouille. Le lendemain matin, je le trouvais à la vérité paralytique d'un côté, mais beaucoup plus alerte et dispo que la veille. Obligé d'aller faire un voyage nécessaire, je le fis mourir à midi en lui ouvrant les deux cavités de la poitrine par une blessure assez grande, large de 3 doigts de chaque côté. Il vécut cependant encore un quart d'heure. Donc la description se limite à ça que fait l'animal. Donc il y en a d'autres, un autre chien, il le crâne en deux, enfin bref, je passe là-dessus. Deuxième type d'expérience, c'est en transposant au cerveau des concepts pris ailleurs. Là, ce sont les expériences de Haller qui va essayer sur le cerveau ces expériences d'excitabilité des organes, des nerfs, etc., mais qui l'empêchent finalement de penser la spécificité du cerveau, hein, puisqu'il transpose un modèle de l'un à l'autre. Et puis enfin, le troisième type d'expérience, alors ça, les plus nombreuses, c'est de chercher l'endroit de transmission entre le cerveau et l'âme. Comment ça passe entre le cerveau et l'âme? Descartes avait dit que c'était par la glande pinéale, donc on va beaucoup travailler là-dessus, et au XVIIIe siècle, on cherche plutôt du côté du corps calleux, mais sans apporter évidemment de réponse. Et là, il y a beaucoup d'expériences, notamment celle de Claude Perrault sur un chien qui blesse le chien au cerveau, mais sans qu'il meure. Et Claude Perrault en conclut que le cerveau est bien un organe secondaire. Et c'est une idée qui va rester dominante jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors, il y a un renversement complet entre 1780 et 1820 pour le cerveau, mais qui est tout à fait à l'image de ce qui se passe en général, donc en physiologie, en médecine. On s'aperçoit de quoi ? C'est qu'en une quarantaine d'années, le cerveau, qui était l'organe secondaire, devient l'organe principal. Il tient la première place. Et il est décrit comme l'aboutissement d'un système complexe, les nerfs, la moelle épinière, etc., etc. Première nouveauté. Deuxième nouveauté, il y a une articulation à la médecine clinique. Alors pourquoi ? Ces deux nouveautés, première raison, c'est l'abandon de l'âme, hein, qui avait été le grand modèle théorique de l'époque moderne, s'est abandonné au début du XIXe siècle. Et puis la deuxième raison, c'est le fait qu'on revient à l'idée que chaque organe a des fonctions différentes. Et même à l'intérieur des organes, il peut y avoir des parties avec des fonctions différentes. Et là, on a un phénomène de ce qu'on appelle la relocalisation, que l'on voit aussi en médecine. C'est-à-dire qu'on passe de la question « qu'avez-vous comme maladie ?» à la question « où avez-vous mal ?» Et donc, on fait correspondre à une maladie, on fait correspondre un organe de l'homme, on parle de siège d'une maladie, et l'une des phrases de l'époque, c'est qu'il n'existe pas de maladie sans siège. Donc on a là une liaison entre médecine et physiologie qui est opérée. Alors cette liaison médecine-physiologie, elle est développée par Magendy et Claude Bernard, et Claude Bernard est évidemment celui qui va justifier la vivisection en disant, donc, dans l'introduction à la médecine expérimentale de 1865, qu'on ne peut pas faire de médecine scientifique et de physiologie scientifique sans recourir à la vivisection. Une de ses phrases, c'est qu'on ne peut pas trouver les lois et les propriétés de la matière vivante sans disloquer les organismes vivants pour s'introduire dans leur milieu intérieur. Et pour lui, donc, la vivisection devient la méthode principale, à tel point que l'introduction à la médecine expérimentale devait être une introduction, comme le titre l'indique, à un manuel plus important, en deux volumes, dont il a beaucoup hésité sur le titre. Et l'un des titres prévus, c'était « Traité de vivisection appliqué à la physiologie, la pathologie, la thérapeutique opératoire ». Et dans ses notes manuscrites, on trouve où il prépare son ouvrage, on trouve des phrases du genre « Je m'occuperai plus particulièrement de la régularisation des procédés de vivisection zoologique ». Pourquoi ? Parce que c'est la branche la plus délicate et la plus féconde, et comme étant celle qui peut être d'une plus grande utilité immédiate, j'insiste sur le immédiate, à l'avancement de la médecine expérimentale. Et dans l'introduction, dans la première édition de l'introduction à la médecine expérimentale, il annonce l'apparition de ce manuel, qu'il appelle, dans l'introduction, il l'appelle « Principe de médecine expérimentale ou d'expérimentation appliquée ». Donc c'est pour lui le cœur donc, de la démarche. Et évidemment, à partir de Claude Bernard, la vivisection est justifiée et va, je vous en parlerai après, se développer. Donc voilà pour mon premier aspect, donc le développement de cette vivisection. Deuxième aspect, la justification. Alors d'abord, vivisectionner, ça se développe. Enfin, si on peut dire, jusqu'à Claude Bernard, c'est quand même très très réduit. Ça prend vraiment un essor à partir de Magendy et Claude Bernard. Justification, alors d'abord, vivisectionner sur qui ? Pourquoi ne pas vivisectionner sur l'homme ? Et la question s'est posée dès les origines. On sait qu'à l'époque hellénistique, voire à l'époque romaine, des souverains du Proche-Orient, à Pergame, en Égypte, ont fait des études sur des esclaves ou des criminels, des études d'effets de poison et d'effets d'antidote. On sait que Galien, il le dit, a fait des expériences sur ses esclaves. Il a injecté des substances dans le nez de ses esclaves pour voir les effets de ces substances sur le cerveau. Et on sait que les médecins d'Alexandrie, dont je vous parlais au début, donc vers 300 avant Jésus-Christ, ont fait des dissections, enfin des vivisections d'esclaves et de prisonniers. Alors apparemment, ça a été relativement bref. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait de répondre à deux questions. Première question, c'est est-ce qu'il y a analogie entre les corps morts, les hommes morts et les hommes vivants ? On connaissait très bien les cadavres, mais on voulait savoir s'il y avait analogie totale entre le mort et le vivant. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a analogie entre l'animal vivant et l'homme vivant ? Et ces deux questions, à l'affirmative, ont permis aux médecins d'Alexandrie de se replier sur la vivisection animale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès l'époque, cette vivisection donc humaine, ou cette expérimentation humaine, parce qu'il y a plus que la vivisection, a été refusée par les médecins. Pour plusieurs raisons. Première raison, ils pensaient que des patients forcés, c'est-à-dire les esclaves ou les criminels, représentaient un faible intérêt pour la mise au point des traitements. Leur corps forcé ne pouvait pas donner de bons résultats. Et puis, deuxième raison, c'est que le procédé, tout simplement, est indigne d'une recherche pour la pure connaissance. La pure connaissance ne justifie pas de faire cela. Et là, on est totalement à l'opposé, je vous en parlerai après, d'un Claude Bernard. Et on voit très bien se développer, dès l'Antiquité, du côté des médecins, des moralistes, des juristes, deux distinctions importantes. La première, c'est que l'obligation de succès n'entraîne pas une obligation de moyens. On n'est pas obligé de tout faire. Et puis la deuxième distinction, c'est la distinction entre l'essai thérapeutique ayant pour but d'améliorer la santé avec une véritable finalité qui peut être faisable, et l'essai thérapeutique, ou l'essai expérimental plutôt, ayant pour but simplement d'améliorer les connaissances. Et ce deuxième but n'est pas acceptable dans toutes les conditions. Et alors, cette position va rester en place jusqu'au XVIIIe siècle, puisqu'on vit jusqu'au XVIIe, XVIIIe sur Galien, et c'est cette position qui fait renoncer à la tentation de revenir à la vivisection humaine au XVIIIe siècle. Il y a eu des projets, on trouve des phrases chez Maupertuis qui proposent l'expérience à vif sur les criminels, les condamnés à mort, chez Diderot, mais ça n'est pas allé plus loin, en grande partie à cause de ces préventions, et ces préventions qui sont, là aussi, on pourrait dire, théorisées chez Claude Bernard. À propos des expériences sur l'homme, Claude Bernard dit qu'on peut, la morale ne défend pas l'expérimentation sur l'homme s'il n'y a aucune souffrance, aucun inconvénient chez l'expérimenté. Mais la morale chrétienne, alors l'adjectif chrétien est évidemment très important, la morale chrétienne défend de faire du mal à son prochain. Et donc Claude Bernard, finalement, justifie l'abandon total de la vivisection humaine. Enfin, on ne peut même pas parler d'abandon, l'abandon de la tentation, si on peut dire, pour le repli sur l'animal. Alors justement, l'animal, comment le justifie-t-on ? Ce repli sur l'animal, on voit les justifications chez Galien, pas chez les médecins grecs d'Alexandrie, on n'a pas suffisamment de textes, mais chez Galien, il le développe tout à fait. Pour lui, autant on peut difficilement travailler sur l'homme, autant on peut travailler sur l'animal, parce que c'est un objet sans personnalité, sans droit. Et donc, la vivisection est un acte moralement irréprochable. Alors, il reconnaît quand même une gêne sentimentale, une gêne esthétique, qui fait qu'il refuse de disséquer des animaux en position humaine, en position dressée, et notamment les singes. Il ne veut pas travailler sur les singes, car leurs expressions rappellent trop la souffrance humaine. Et Galien, lui, travaille beaucoup plus sur le porc. À la fois, c'est un animal qu'on se procure facilement, économiquement, il ne coûte pas cher, et puis il n'y a pas le même problème philosophique, si on peut dire, que pose le singe. Et c'est Galien qui impose l'idée, qui va rester en place très longtemps, que le porc est finalement la copie la plus proche du corps humain. Alors, cette idée de ces justifications de Galien, on les retrouve en place au XVIIe siècle, lorsque la vivisection revient. On s'appuie en grande partie sur les idées de Galien, mais avec d'autres concepts. Il y a surtout le concept de l'animal-machine. L'animal-machine ne souffre pas. Et puis, l'animal-machine est un concept transposable d'un être vivant à l'autre. À partir du moment où les corps vivants sont des machines, on peut transposer d'un animal à l'autre et d'un animal à un homme les constatations vues sur l'un d'entre eux. Et puis, on voit apparaître donc une autre nouveauté, c'est le droit de la science, qui n'était pas là sous l'Antiquité, même chez Galien. Le droit de la science, finalement, et qui est vraiment l'argument central chez Claude Bernard, qui devient l'argument central chez Claude Bernard. Alors, chez Claude Bernard, il y a en gros 4-5 arguments pour justifier l'expérimentation. Il y a le premier argument, c'est le droit d'une manière entière et absolue. Bon, on retrouve Galien, mais chez Claude Bernard, quand on lit les textes de Claude Bernard, on voit bien qu'il est là dans la morale chrétienne. Autant il emploie la morale chrétienne pour dire on ne peut pas expérimenter sur l'homme, et on voit bien qu'il utilise cette même morale chrétienne pour dire on a le droit entier et absolu d'expérimenter sur l'animal. Deuxième raison, c'est qu'on a le droit de se servir de l'animal pour tous les usages, donc pourquoi pas s'en servir pour l'expérimentation. Et là, Claude Bernard est évidemment le contemporain d'une époque qui voit l'explosion des utilisations de l'animal. Fin 18e, 19e siècle, on se met à utiliser l'animal partout, du chien qui tire des charrettes jusqu'au cheval de mine, le cheval de halage, etc. etc. La révolution industrielle se construit sur l'exploitation de l'animal. Donc, en fait, Claude Bernard, là, s'inscrit dans son époque. Troisième argument, c'est réduire le nombre des expériences sur l'homme. Donc, il faut d'abord essayer sur l'animal. Et de là, il dit que tout ce qui est utile pour l'homme peut être fait pour l'animal. Et donc, il a une phrase, il est moral de faire des expériences sur l'animal, quoique douloureuses et dangereuses pour lui. Autrement dit, il ne refuse pas, il ne nie pas la douleur de l'animal, contrairement à ce qu'on fait souvent au XVIIe siècle, où on, dans le modèle de Descartes, on dit que l'animal ne souffre pas. Lui ne refuse pas, et on le voit bien lorsqu'il parle ensuite des opposants à la vivisection, il ne refuse pas l'idée de la douleur. Simplement, il y a une finalité plus importante qui fait qu'on peut passer par la douleur animale. Alors, cette finalité plus importante, c'est quoi ? Ben, c'est le bien supérieur de la science. Et là, on est évidemment dans le contexte de l'époque, dans un contexte de scientisme, de positivisme, qui fait qu'on pense que la science doit gouverner le monde. Les deux corps chez Auguste Comte qui doivent prendre en main la société, ce sont les savants et les ingénieurs. Donc, la science doit guider le monde. On arrive dans l'âge scientifique. Le 19e siècle, c'est le dernier âge de l'humanité. C'est l'âge scientifique. Donc, le bien supérieur de la science est important. Et là, il a une phrase très intéressante. Je la cite. « Le physiologiste n'est pas un homme du monde. C'est un savant. C'est un homme qui est saisi et absorbé par une idée scientifique qu'il poursuit. Il n'entend plus les cris des animaux. » On retrouve l'idée de la souffrance. « Il ne voit plus le sang qui coule. » Il ne voit que son idée et n'aperçoit que des organismes qui lui cachent des problèmes qu'il veut découvrir. Donc, c'est vraiment la science au premier plan. Et il termine la justification de la vivisection par, là aussi, le modèle de la machine. Les êtres vivants fonctionnent sur des bases communes. Les modèles animaux s'appliquent à l'homme. En ce qui concerne la digestion, la circulation sanguine, la conduction nerveuse, etc. Et même lorsque, pour lui, il y a des différences, comme les fonctions mentales, on pourra avoir une application à plus ou moins long terme. Voilà donc pour les justifications. Je termine avec les oppositions, si on peut dire. En fait, l'idée que je voudrais là souligner en introduction, c'est que les vivisections, jusqu'à Claude Bernard, disons jusqu'au milieu du XIXe siècle, les vivisections sont peu nombreuses, ponctuelles et surtout très mal reçues, y compris par le monde scientifique, y compris par le monde et surtout par le monde médical. Alors, il y a trois types d'oppositions et qu'on voit apparaître dès l'Antiquité. Première opposition, opposition philosophique. On les voit très bien chez Platon, chez Aristote, pour des raisons très diverses. Par exemple, Platon... pour Platon, la connaissance vraie provient des idées générales, provient du raisonnement, et non pas des sens, non pas de ce qu'on peut observer matériellement. Donc ça ne sert à rien d'aller trifouiller dans un corps animal, on ne verra rien. Et en plus, il est cruel de violer la nature en extorquant des réponses par une torture. Et puis, il y a aussi un argument religieux. On ne peut pas outrepasser les limites du savoir imposées par les dieux. Les dieux ont caché ce qui se passait dans les corps animaux, dans les corps des vivants. Il est impie. Ils n'ont pas voulu que les hommes le sachent, ce qui se passait dans ces corps vivants. Il est impie d'aller le voir. Ces objections de Platon vont être reprises par la philosophie médiévale, en gros, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. Médiévale, y compris une grande partie de l'époque moderne. Chez Aristote, c'est autre chose. Aristote met sur pied une procédure scientifique basée sur l'observation et basée sur la mise au point de notions générales dégagées de cette multitude des observations. C'est la multiplicité des observations, la multiplicité des cas particuliers qui permet d'arriver à l'idée générale. Et on passe à l'idée générale par la pensée. Autrement dit, il fait un peu du platonisme, mais avec l'observation. Et il n'admet pas l'expérience. L'expérimentation, pour lui, ce sont des conditions artificielles qui dénaturent l'événement. Et on peut épier la nature, mais pas lui extorquer les secrets par la contrainte. Alors, il n'empêche quand même qu'Aristote a fait des vivisections, très peu, mais peu parce que, pour lui, ce n'est pas un mode d'investigation cohérent et important. Donc voilà pour les philosophes. Du côté des médecins, il y a une très forte opposition. pas du côté des physiologistes, des médecins, si on peut parler de physiologistes à l'époque. Alors pourquoi opposition ? Tout simplement parce que là aussi, beaucoup de médecins de l'Antiquité pensent que les maladies ne peuvent se comprendre que par l'observation externe et par le raisonnement en se référant à des modèles extérieurs. C'est très net chez Hippocrate. Hippocrate pense les maladies en se référant à des grilles de lecture extérieures, par exemple, et il analyse les corps en se référant à des grilles de lecture extérieures, par exemple, le modèle de la pompe, le modèle de la ventouse, du récipient, etc., etc. Donc, il n'a pas besoin d'aller voir à l'intérieur comment ça fonctionne. Et puis, les médecins, beaucoup de médecins ont l'idée, mettent en avant la notion de complexité de la nature. La complexité de la nature, la spontanéité du vivant font que chaque cas est particulier et qu'il ne sert à rien d'aller voir chez un autre ce qui se passe pour telle ou telle maladie parce que, de toute façon, chaque cas, chaque être développe sa forme particulière de maladie. Donc, il n'y a pas besoin d'aller généraliser. Et puis, il y a aussi l'idée de la crainte d'agir artificiellement contre la nature, contre la nature. Donc, si on agit contre la nature, elle ne délivrera pas ses secrets. Il faut agir selon la nature. Voilà donc du côté des médecins. Et puis, il y a une troisième opposition, c'est une opposition, on pourrait dire, juridique, qui est très nette à Rome. À Rome, la responsabilité du médecin est totalement engagée si le patient meurt. Et notamment s'il meurt à la suite d'un traitement contraire aux règles de l'art. C'est surtout ça le point important. On vérifie si le traitement était contraire aux règles de l'art. Du coup, les médecins romains, pour ne pas prendre de risques, renoncent aux traitements nouveaux, renoncent aux interventions risquées, et donc, du coup, n'ont pas besoin d'aller chercher bien loin, d'aller faire des expérimentations pour voir comment ça fonctionne. De toute façon, ils préfèrent en rester à la médecine, par exemple, de Galien ou à la médecine d'Aristote, pour ne pas aller plus loin, pour ne pas risquer donc des problèmes. Alors, on se rend compte que ces arguments donc opposés à l'expérimentation, à la vivisection, restent en place au Moyen-Âge et restent en place notamment au XVIe, XVIIe siècle, lorsque la vivisection est remise au goût du jour par des physiologistes. On s'aperçoit que la plupart des médecins au XVIIe siècle sont opposés à cette vivisection. Harvey, par exemple, dit lui-même dans ses ouvrages, dans ses lettres, il a été affronté aux moqueries, aux reproches des médecins qui ont jugé que ces expérimentations ne servaient à rien. Alors, pourquoi elles ne servent à rien ? Pour deux raisons. C'est qu'on pense que l'animal n'a rien à voir avec l'homme. Donc, ça ne sert à rien d'aller tréfouiller l'animal. Et puis, la deuxième raison, c'est que le stress infligé à l'animal est tel que, de toute façon, l'observation ne peut pas être fiable. Et alors, cette opposition des médecins, elle reste en place longtemps, je vous en parlerai après, jusqu'aux années 1920-1930, et Claude Bernard la trouve, cette opposition des médecins, à tel point qu'il en parle dans l'introduction, et il en fait finalement le groupe le plus opposant. Il a une phrase très dure sur les médecins, je cite, « Les médecins qui se trouvent sous l'influence de certaines idées fausses et à qui le sens scientifique manque, ne peuvent se rendre compte de la nécessité de vivisectionner pour constituer une science biologique. » Alors, évidemment, là, il se réfère à l'existence de quantités d'écoles médicales différentes dans la première moitié du XIXe siècle, fin XVIIIe, début XIXe siècle. On compte pas moins en Europe d'une dizaine d'écoles médicales qui, alors je ne veux pas toutes les citer, il y a les galénistes, il y a la médecine romantique allemande, il y a l'homéopathie qui se développe, il y a les classificateurs qui se lancent à la suite de Linné, qui a classifié les plantes et les animaux, qui se disent que si on décrit bien et si on arrive à classer les maladies, on les comprendra et qu'on saura comment lutter contre. Donc, il y a toute une série d'écoles médicales et qui n'utilisent pas l'expérimentation. Et c'est contre ces écoles médicales que Claude Bernard s'élève et Magendie auparavant. Et puis, deuxième opposant que Claude Bernard cite, ce sont les gens du monde. Mais quand on lit ses travaux, il est beaucoup plus indulgent pour les gens du monde que pour les médecins. Les gens du monde, finalement, ils acceptent leurs arguments, notamment la souffrance animale. Et on voit bien dans ses textes qu'il ne nie pas la souffrance animale. Il la voit, mais son argument, c'est de dire, de toute façon, on n'est pas sur les mêmes valeurs, on n'est pas sur les mêmes grilles. Les gens du monde regardent la souffrance animale très bien pour eux. Moi, je suis sur la grille scientifique. Et donc, ce n'est pas les mêmes valeurs. Ils ont leurs arguments, j'ai les miens. Et comme la science justifie tout, entre guillemets, on peut donc développer la vivisection. Alors, c'est qui ces gens du monde ? Alors, ces gens du monde, on les voit, l'opposition des gens du monde, alors ça, c'est une nouveauté. On en voit très peu au XVIIe, XVIIIe siècle. Elle apparaît au milieu du XIXe siècle, dans le sein de la SPA française, qui est créée en 1845. Au départ, c'est relativement larvé, jusque vers 1870-80, et l'opposition explose à partir des années 1870. Et elle se traduit de deux manières, à la fois par des manifestations contre les médecins ou les physiologistes qui vivisectionnent. On exclut, par exemple, de la SPA quantité de médecins. La SPA a été fondée par des médecins et des propriétaires terriens. Et une bonne partie de ces médecins qui se mettent à la vivisection dans le sillage de Magendie et Claude Bernard sont exclus de la SPA. Et puis, on organise des manifestations, par exemple, contre Pasteur. Et il y a même des coups de force contre l'Institut Pasteur qui sont menés jusqu'aux années 1910, à peu près, hein, jusqu'à la guerre. Et puis, l'autre procédé, c'est la création de ligues contre la vivisection. Hein, la première en 1882 pour la France. La première pour la France, c'est la Société française contre la vivisection, dont l'un des membres d'honneur, le vice-président, c'est Victor Hugo. Et il y a beaucoup d'hommes de lettres qui, à l'époque, de Zola à Victor Hugo, vont prendre position contre la vivisection. Alors pourquoi à partir des années 1870-80 et pourquoi pas dès 1845 avec la formation de la SPA ? En grande partie parce qu'à partir des années 70-80 se développe ce qu'on appelle, nous les historiens, la seconde SPA, une seconde forme de protection. La première protection, c'est celle des médecins, des propriétaires terriens. Il fallait respecter l'animal pour qu'il travaille bien, hein, pour qu'il travaille mieux. C'était une protection utilitaire. À partir des années 1880, on voit arriver une autre forme de protection. Alors, l'une ne remplace pas l'autre. Hein. Les deux vont coexister, en gros, jusqu'à l'entre-deux-guerres. Mais on voit apparaître donc une autre forme de protection, qui est une protection qui insiste beaucoup plus sur l'animal lui-même, sur l'idée de souffrance animale, sur le rejet des violences à son égard. Et c'est une protection plus, entre guillemets, plus radicale, c'est-à-dire qui veut obtenir des résultats précis sur le sort animal. C'est une protection agissante. C'est l'époque, par exemple, où on crée les refuges pour chiens. C'est la même époque. On veut une protection agissante qui vienne vraiment au secours des animaux. Et la lutte contre la vivisection entre dans ce cadre. À la même époque, on lance aussi la lutte contre la corrida, etc., etc. Alors, pour conclure, je pense que je suis dans les temps, hein, pour conclure, quelques mots sur le XXe siècle. Quand on regarde la littérature sur la vivisection, on s'aperçoit qu'il y a une forte opposition à la fois des médecins et des gens du monde, comme le dit Claude Bernard, dont sa femme et ses filles, en gros jusqu'aux années 1920. La grande période, c'est les années 1880-90. Ça tombe un petit peu, ça fléchit un petit peu au début du siècle. Et puis, il y a un grand creux de l'opposition à partir des années 1920 jusqu'aux années 60. Il y a vraiment un creux très net. Les ligues sont plus ou moins mises en sommeil. Il paraît très peu de textes contre la vivisection, alors qu'on a une véritable explosion dans les années 80-90. Je pense qu'on peut mettre ça en relation avec les progrès de la médecine de l'époque. Par exemple, en 21, c'est la découverte de l'insuline, qui fait que les opposants se trouvent un peu pris à contre-pied. Mais il y a aussi une forte opposition des médecins, à peu près jusqu'à la même époque. On pourrait penser que les médecins se convertissent immédiatement au milieu du XIXe siècle avec Magendie et Claude Bernard. Non, on voit une opposition très forte des médecins parallèlement jusqu'aux années 1920. Et puis là aussi, le creux, jusqu'aux années 70. Ce qui fait qu'on pourrait dire que quand on s'intéresse à l'opposition à la vivisection, finalement, le XXe siècle est un peu un siècle à part. C'est le siècle où on a le plus accepté la vivisection. C'est le siècle aussi où on l'a plus pratiqué. Et je pense qu'il faut rapprocher cette caractéristique du XXe siècle à partir XXe siècle élargi, à partir des années 1880, d'une attitude générale vis-à-vis de la nature et vis-à-vis de l'animal. C'est l'époque où on prône la domestication à outrance. L'animal sauvage, au XIXe siècle, n'a que deux solutions. C'est soit il se laisse domestiquer, soit s'il ne veut pas être domestiqué, il est exterminé. Il n'y a pas de possibilité de le garder à l'état sauvage, comme on le pense maintenant dans des réserves. Ça paraît totalement impensable. Donc, il y a une prise en main de la nature qui est évidente. Les fauves, il faut les exterminer. Il y a une prise en main de la nature dont je vous ai parlé avec cette explosion d'utilisation de l'animal. Et on voit bien que cette prise en main générale de la nature, on la voit aussi dans la science, c'est que la vivisection est finalement un reflet de cette volonté de prendre en main et d'exploiter la nature. Et on pourrait dire pareil pour le retour des oppositions à partir des années 70. Quand on revoit la littérature, c'est très net. La littérature contre la vivisection et contre l'expérimentation animale en général se développe d'une manière très très forte à partir des années 70. Et là, je pense qu'il faut inscrire ce retour des oppositions au mouvement général dans la société occidentale de réhabilitation de la nature, de volonté de protection. Et puis, à un autre mouvement qui est celle d'une méfiance qu'on voit un peu de partout à partir des années 70, d'une méfiance vis-à-vis de la science, de ce qu'on a appelé dans les années 70 la science sans conscience, qui fait que finalement, l'expérimentation ayant tellement été légitimée par Claude Bernard, devenue normale, on s'était mis, et une personne tout à l'heure l'a avoué, on s'était mis peut-être à faire un peu n'importe quoi, n'importe comment, et on sait... D'où cette montée des oppositions. Mais on avait développé la vivisection, et je termine avec ça, on avait beaucoup développé la vivisection en oubliant un passage de Claude Bernard que j'ai trouvé en lisant ces textes, mais qu'on ne trouve pas beaucoup dans les commentateurs. Claude Bernard pense qu'effectivement, la vivisection est quelque chose d'important, mais c'est quelque chose d'important d'une manière temporaire. Et ça, c'est peu évoqué. Il dit très bien que c'est un moyen nécessaire, mais limité et insuffisant. Ça n'est qu'une dissection anatomique sur le vivant. Ça n'a qu'une portée restreinte. Il dit même noir sur blanc que ça peut induire en erreur sur le rôle véritable des organes et qu'il faut développer d'autres moyens d'investigation. Alors lui, à son époque... cite les poisons. Bon, je ne suis pas sûr que les poisons pour un animal vivant, ce soit mieux que la vivisection. Mais on voit très bien, dans son idée, la vivisection ne peut être qu'un état temporaire. Il dit très bien que c'est une expérimentation trop grossière pour être satisfaisante et qu'il faut aller plus loin. Et ça, manifestement, c'est une idée qu'au XXe siècle, qui a été largement oubliée au XXe siècle, sauf dans le dernier tiers du XXe siècle, où là, on voit réapparaître l'idée d'alternative à cette expérimentation animale. Voilà, j'ai terminé. Je laisse la place donc pour le XXe siècle.
Merci à Éric Baraté pour cette conférence, qui est une excellente introduction, je crois, au débat que nous allons avoir aujourd'hui et qui pose bien le problème... maintenant, on va aborder d'autres domaines, mais peut-être avant, il y a des questions. Oui.
Merci, monsieur. Merci pour cette super prestation. J'ai une remarque brève et une question brève. La remarque d'abord, bien sûr que Claude Bernard défend une morale chrétienne, mais il y a des morales chrétiennes. Il défend la morale de Descartes.
Bien sûr.
Il ne défend pas, la morale de François d'Assise, par exemple. Et une question maintenant qui m'a un peu étonné. Tu as parlé de Perrault qui visait, par analyse, par dissection, à trouver la jonction entre l'âme et le corps ou le cerveau chez le chien. Est-ce que ça veut dire que les gens comme Perrault croyaient à l'âme des animaux, contrairement à Descartes ?
Alors, non, parce que Claude Perrault est un cartésien. Mais il croyait à une forme d'âme. Une âme matérielle ou quelque chose comme ça. Donc, il pensait qu'on pouvait trouver quelque chose là-dessus. Mais lorsqu'il fait cette expérience, ce n'est pas tellement pour trouver l'âme humaine, puisque c'est le chien, c'est avant tout pour voir quel est le rôle du cerveau. C'est pour finalement montrer que le cerveau a une place secondaire et donc que dans le cas de l'homme, les facultés de raisonnement, etc., sont bien transmises à l'âme par le cerveau. C'est plus comme ça qu'il fait le... Alors, pour le christianisme, évidemment, ce n'est pas le christianisme de François d'Assise, mais le christianisme de François d'Assise a toujours été très minoritaire. C'est le christianisme, on pourrait dire, celui qu'il invoque, c'est le christianisme, entre guillemets, lambda, normal, tel qu'on le considère à l'époque.
J'avais aussi une remarque, et j'ai été frappé par ce que vous avez dit à propos des Romains, et qu'ils refusaient en quelque sorte l'expérimentation, la vivisection, en pensant que chaque individu était propre. Et je trouve que cette notion s'est beaucoup perdue, y compris jusqu'à des temps récents, puisqu'en médecine, on raisonne encore avec des grandes cohortes, des effets statistiques, etc. Et c'est seulement depuis 10-15 ans que l'on en vient à la médecine personnalisée, qui est exactement ce concept-là, puisqu'on a observé qu'il y avait des antagonismes de médicaments, des effets très spécifiques sur certaines personnes, etc. Et j'ignorais personnellement tout cet aspect de l'époque romaine, et je vous remercie de l'avoir signalé, parce que finalement, ils étaient très en avance sur notre temps.
Oui, effectivement.
Pardon, en dehors de l'animal, vous avez bien précisé, heureusement, que les expérimentations étaient faites sur des hommes qui étaient des esclaves ou des prisonniers,
oui.
Etc.
Oui, ça, c'est... pas sur les citoyens, les hommes
voilà.
libres.
Voilà, parce que vous avez parlé de l'homme, justement, dans l'Antiquité.
Oui, oui, oui,
voilà.
Oui, tout à fait.
Florence. Oui, c'est juste un retour à la remarque de Georges. Parce que Claude Bernard parle de la morale chrétienne, mais aussi de la morale moderne, de la morale d'État. Donc, on voit qu'il prend effectivement le sens chrétien au sens de la morale qui a cours, sans se
préoccuper.
Oui,
c'est la morale normale
voilà.
pour lui.
Je voudrais d'abord féliciter Éric Baratek qui a réussi à nous éblouir et à nous éclairer. En même temps, ce n'est pas toujours facile de faire les deux à la fois. Et je voudrais poser une question franche et directe. Selon vous, conviendrait-il de débaptiser les rues et les universités Claude Bernard ?
Ça, c'est à la suite de la polémique pour débaptiser la rue Cuvier. Alors allons-y.
Non, moi je ne crois pas. Enfin, en tant qu'historien, les procès rétrospectifs, je ne suis pas du tout favorable.
Bon, il est intéressant quand même qu'on sache qui est exactement Claude Bernard, parce qu'il y a aussi un mythe autour de cette personne qui a inventé l'expérimentation.
Mais les procès historiques,
oui.
qu'on sache, enfin. Mais après, s'il faut rejuger tout le monde, alors là...
Vous demandez à Michel Albert Ganti sur le site de
France
Culture.
Hier, Georges Chapoutier a rejugé Napoléon.
C'est vrai, Georges, c'est vrai, il a
Donc
fait ça.
On en
finira Prochaine plus. Conférence.
Juste un petit mot, je pense que l'historien n'a pas jugé, le philosophe et le moraliste, si.
Oui, oui, bien sûr.
Voilà. Très bien, c'était, voilà.
Bien, tout d'abord pour l'espace Mendès France, un remerciement.
Merci.
Parce que et puis vous dire que votre travail est efficace puisque ce sont des étudiants qui m'ont gentiment donné ce document et qui font que je suis là ce matin après avoir déplacé quelques rendez-vous. Je suis enseignant chercheur, je suis Pascal Keller, je suis enseignant en psychopatho à l'université de Poitiers et comme je parle souvent de ces questions en cours, quand les étudiants ont vu ça, ils m'ont dit mais c'est pour vous ça. Bon alors je suis là. J'interviendrai. Alors je serai pas. Je suis obligé de partir après dans la journée, mais je vais rester le plus longtemps possible. En tant que historien. Je m'attendais à ce que, au moment de la question, vous avez abordé la question du cerveau et où on a localisé la pensée dans le cerveau et non plus dans l'âme, vous nous alertiez sur le fait que ça s'est passé au moment de la Révolution française, c'est-à-dire au moment où on a déclaré les droits de l'homme, etc. Enfin, on a fait, on a donné à l'humain un statut particulier au sein de la création. Et moi, m'est revenu en mémoire quelque chose que je cite souvent aux étudiants, qui est la formule de Cabanis, qui est justement à propos du cerveau, que le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile. Et bien que cette formule remonte quand même à la période de la vraie révolution, je crois 1792, je l'ai retrouvée prolongée par quelqu'un qui défend l'idée que l'animal est une personne, Jean-Yves Christen, dans un livre qui s'appelle « L'animal est-il une personne ?» Très bien. Et qui prolonge l'analogie en disant « Le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile et comme le rein sécrète l'urine. » Et je, en tant que psychopathologue, je me dis que cette analogie donne à la pensée un statut quand même un peu particulier. Et donc voilà, moi, je m'interroge sur l'analogie entre l'homme et l'animal. Je fais des recherches, enfin des travaux, je mets une réflexion là-dessus. Et voilà, je pensais que, à propos de la formule de Cabanis qui tente d'élever justement le cerveau au rang d'organe qui sécrète la pensée, on aurait pu faire le lien avec la période historique.
Oui, alors les droits de l'homme, je ne suis pas sûr. L'idée de révolution, c'est-à-dire qu'on met à bas les concepts et on reconstruit tout, c'est évident. Alors effectivement, cette idée de la relocalisation de la pensée dans le cerveau, elle commence vers 1780, donc Cabanis est tout à fait dedans, mais elle devient quelque chose de commun vers 1820-1830. Hein, Cabanis est, disons, l'un des premiers à en parler.
Oui, pardon, juste simplement à propos de la phrase que vous citez sur Cabanis, malheureusement, le rein ne sécrète pas l'urine, il excrète l'urine. Ce n'est pas du tout pareil, parce que la sécrétion, c'est le produit d'une élaboration, et là, c'est un filtre, enfin, c'est pour simplifier. Donc, il y a des termes là qui sont un peu ambigus, je crois que c'est bien de les rétablir. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, je suis bien obligé de constater. Deuxièmement, je viens comme ça de penser à quelque chose. Est-ce que dans cette grande et très longue époque d'utilisation expérimentale de l'animal, il n'y a pas deux grandes phases, finalement? Une qui n'a été que de la vivisection.
Oui, tout à fait.
Que de la vivisection jusqu'à ce qu'on se mette à regarder comment les organes pouvaient fonctionner. Et là, c'est de l'expérimentation. C'est-à-dire de regarder des fonctionnements et non pas seulement regarder des constitutions. Enfin, il y a, je crois, une espèce d'expérimentation qui était une expérimentation très traumatisante, qui était celle de la vivisection, quitte à priver un animal d'une partie du cerveau, de son foie, de ses reins, etc. Mais c'était en détruisant l'animal, enfin en détruisant une partie. Puis ensuite est venue une époque où on a soumis l'animal à des poisons, c'est ce qu'on disait, c'est ce que vous disiez à propos, à des conditions physiologiques pour modifier ces conditions physiologiques, modifier son fonctionnement et regarder ce qui se passe. Je pense que ces deux époques, historiquement et scientifiquement, différentes, elles se recoupent, hein. Enfin, il y a quand même deux âges, si vous voulez. On est dans le deuxième, là, encore.
Oui.
Où il n'y a plus guère de vivisection, quand même, il faut dire. La vivisection pour la vivisection, elle a disparu. Hein.
Oui. Même à ce que vous appelez la première époque, il y a quand même la volonté de comprendre le fonctionnement. Simplement, évidemment, on le fait dans des conditions qui font qu'on ne comprend pas grand-chose. Hein? Bien sûr. Ah oui, pour l'animal, bien sûr. Mais évidemment, on cherche à comprendre le fonctionnement, mais c'est évident qu'on ne comprend pas grand-chose. C'est pour ça que d'ailleurs, ces expériences sont répétées, recopiées, et qu'il n'y a pas de savoir cumulatif, au moins jusqu'au XVIIIe siècle. Hein, parce que, bon, lorsque Zinn coupe le crâne du chien, scie le crâne du chien en deux, bon, il regarde ce qui se passe, et il essaye de comprendre ce que fait le cerveau, mais est-ce qu'il peut bien comprendre grand-chose? Je ne suis pas sûr. Hein.
Oui. Qu'est-ce qu'on sait de la part de l'expérimentation animale dans d'autres cultures qu'occidentales, européennes? Je pense notamment à la médecine chinoise, par exemple.
Oui, j'allais dire que mes lumières sont très faibles là-dessus. Je pensais à la médecine chinoise, mais alors vraiment, mes lumières, je ne pourrais pas en dire plus. Hein. Je ne voudrais pas dire des sottises et des généralités. Je ne sais pas si quelqu'un en sait. Mais...
Vous avez parlé des cris des animaux. Est-ce que c'était fait dans des laboratoires c'était pas des vrais laboratoires
non,
à l'époque,
Zine,
bien entendu.
Par
c'était
exemple,
fait dans
fait
les maisons
lui, hein.
Dans, familiales. Voilà, oui. C'est important aussi oui, à préciser, parce que je pense qu'il devait y avoir...
Oui, à propos des dépatitions, j'ai travaillé en laboratoire à l'université Alexis Carrel, qui a été débaptisé. Et finalement, quand on fait de l'histoire a posteriori, enfin, c'est pas que j'ai un grand respect pour l'œuvre d'Alexis Carrel pendant la Seconde Guerre mondiale, mais loin de là. Mais maintenant, on n'en parle plus, finalement. Est-ce que c'est mieux d'en parler ou pas en parler c'est... Ça reste une question. Donc, débaptiser pour débaptiser, effectivement, c'est faire des procès un petit peu qui sont difficiles à juger. Mais j'ai une petite question. Est-ce que par rapport à l'aspect historique, le creux au XXe siècle, entre les années 20 et 60, et peut être aussi lié aux deux conflits mondiaux qui ont fait que la vie humaine avait quand même peu de valeur pendant ces périodes-là et que finalement, en plus des progrès de la médecine, et la vie de l'animal pouvait encore être considérée comme... peu importante.
Oui, sans doute. La période des années 20-60, c'est quand même une période où on retrouve sans arrêt cette période sur les différentes facettes de l'histoire de la nature ou de l'animal. C'est la période où on a beaucoup chanté, entre guillemets, la maîtrise de la nature. C'est l'époque des grands barrages aux États-Unis, à l'URSS, on détourne les fleuves, etc. C'est l'époque de la bombe atomique. Il faut lire par exemple Teilhard Chardin. Lorsque la bombe atomique explose à Hiroshima, Teilhard Chardin fait un grand article enthousiasme sur l'avènement d'une ère nouvelle. On est vraiment dans la technicité à outrance. Et dans cette technicité à outrance, il y a une volonté de maîtrise de l'animal et de maîtrise de la nature qu'on retrouve de partout. C'est l'époque par exemple où on légalise la corrida. Pour la même raison, la corrida comme maîtrise de la force sauvage, etc. Donc, il me semble quand même que la vivisection rentre là-dedans. Alors que le phénomène, évidemment, des guerres mondiales et de la banalisation de la violence rentre dedans, sans doute, hein, sans doute. Mais disons que la vivisection n'est pas le seul, là, hein, il y a tout un ensemble.
Merci, merci pour cette excellente conférence. Bien, je vais donner la parole maintenant à Jean-Pierre Marguenot, qui est professeur de droit privé à la faculté de droit et de sciences économiques de Limoges, et qui est directeur du centre de recherche sur les droits de la personne. Donc, Jean-Pierre Marguenot a beaucoup publié sur les problèmes des droits de l'homme, et donc nous allons lui demander de faire l'exercice de transposition, puisque... Le titre de sa conférence, c'est « Les droits de l'animal, aspect juridique ».
Je vous remercie. J'aurais bien aimé parler pourtant de l'expérimentation animale. La nouvelle directive numéro 2010-63-UE du 22 septembre 2010 a été publiée au journal officiel de l'Union européenne le 20 octobre dernier. Elle doit entrer en vigueur 20 jours après. Ça va, c'est fait. La véritable entrée en vigueur, ça sera en 2013, comme en 2013 entrera en vigueur le règlement sur l'expérimentation à fin cosmétique. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. J'aurais bien aimé faire le point sur cette nouvelle directive, puisque on entend beaucoup de gens qui en ont entendu parler par oui-dire, et notamment les associations de défense des animaux qui ont clamé honte à l'Europe, jour de malheur pour l'animal, alors que cette directive, quand on la regarde bien, il y a des choses assez passionnantes, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Oui, mais ce soir, je pars. Bien, donc, le droit de de l'animal, aspect juridique. C'est ce qui m'a été demandé de traiter. Alors, on pourrait croire naïvement que la question des droits des animaux présente essentiellement des aspects juridiques. Fort heureusement, il n'en est rien. Ce sont les aspects philosophiques courageusement abordés par Peter Singer ou Tom Regan dans le monde anglo-saxon, André Comte-Sponville, Elisabeth de Fontenay ou Florence Burga en France, Vinciane Després en Belgique, qui ont permis de donner à la question des droits des animaux une légitimité scientifique certaine et une lisibilité médiatique convenable. Les juristes en auraient bien été incapables. Hommage soit donc rendu aux philosophes grâce auxquels les juristes peuvent désormais parler des droits des animaux sans être automatiquement assimilés à d'aimables fantaisistes tout juste bons à apporter une petite touche folklorique dans les colloques les plus austères. Merci donc aux philosophes d'avoir ouvert la voie à l'étude des aspects juridiques des droits des animaux. En rendant possible la discussion sur le plan juridique, les philosophes ont cependant un peu faussé les données. Partant souvent de hautes considérations sur le point de savoir si les animaux, eux, sont des agents moraux ou plutôt des patients moraux, ils en sont en effet arrivés tout naturellement à parler à l'égard des animaux de droits moraux. Or, les juristes, en tout cas les positivistes, ne savent pas ce que c'est que les droits moraux. Ou plus exactement, ils savent ce que c'est, mais ils leur donnent un sens technique très particulier, magistralement maîtrisé dans quelques facultés, au premier rang desquelles figure celle de Poitiers, grâce à Henri-Jacques Lucas, Philippe Gaudra ou Alexandre Zollinger. Pour eux, les droits moraux, ce sont des droits extra-patrimoniaux qui, sur le fondement de l'article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle, permettent aux auteurs ou à leurs héritiers de lutter contre les exploitations qui trahissent l'esprit de leurs œuvres. Les droits moraux des animaux, ce serait donc, à la rigueur, les droits des fourmis à l'égard des écoliers, annonçant lamentablement la fable de la fontaine qui leur a tout emprunté. Il importe donc de démoraliser les droits des animaux si l'on veut convenablement aborder les aspects juridiques du sujet. Juridiquement, la question des droits des animaux peut se poser, je dirais même plus énergiquement, doit se poser, car l'évolution des mœurs et des idées a rendu complètement inadaptée à la réalité et aux enjeux de société leur classification traditionnelle dans la catégorie des biens qui, comme l'avait si bien dit le doyen Poitevin Carbonnier, sont les choses vues par le droit, classification qui en fait des objets de droit. Les animaux sont aujourd'hui protégés en raison de leur sensibilité propre, comme en atteste l'abrogation de la vénérable loi Gramont par le décret du 7 septembre 1959, comme en atteste aussi la proclamation par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1976 que l'animal est un être sensible devant être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Et aussi, plus récemment, affirmation par l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le point 2 du préambule de la directive de 2010 dont je vous parlais tout à l'heure, relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, que le bien-être animal, animal expressément qualifié d'être sensible, est une valeur de l'Union européenne, et j'insiste sur le terme valeur. Les sentiments d'affection envers un animal sont de plus en plus souvent prises en compte par les tribunaux, principalement par la réparation du préjudice moral, comme le montre la brillante chronique tenue par le jeune professeur Limougeot-Pictave Fabien Marc Chadier dans la revue semestrielle de droit animalier, dont je n'arrêterai pas de vous faire de la publicité. Et il est même probable que le droit fasse une place à une sorte de dignité de l'animal, répondant à un nouveau concept dont je tairai le nom, car il est en train d'être fignolé par un jeune chercheur, Pictavo Limousin, Pierre-Jérôme Delage, également collaborateur de la fascinante revue semestrielle de droit animalier. Face à tant de bouleversements qui laisseraient pantois les rédacteurs du Code civil, si une petite expédition cryogénique façon Vanilla Sky leur permettait de venir voir où nous en sommes après avoir éclusé tant bien que mal la première décennie du troisième millénaire,
Tout le monde, ou presque, est d'accord, en France et ailleurs, pour admettre qu'affirmer encore aujourd'hui que les animaux sont des biens, au même titre que les torchons et les serviettes, les 4x4 et les ordinateurs, est complètement inadapté, sinon grotesque. Face à un tel constat, la question de l'évolution du statut juridique de l'animal s'est donc posée avec de plus en plus d'acuité, et elle peut se résumer ainsi, cette évolution du statut juridique de l'animal. Les exigences renforcées de la protection des animaux ne doivent-elles pas conduire à leur reconnaître explicitement des droits? Alors, là, face à ce changement considérable de perspective, les animaux sont protégés pour eux-mêmes, dans leur propre intérêt, en raison de leur propre sensibilité. Le bien-être de l'animal est une valeur de l'Union européenne. Le préjudice d'affection, les sentiments d'affection envers les animaux sont de plus en plus souvent pris en compte par le droit. Et que faire du point de vue du statut juridique? La première réaction a été d'essayer de cajoler un peu les animaux en faisant comprendre que s'ils sont irrémédiablement condamnés à rester des biens, c'est-à-dire des objets et non des sujets de droit, ils ne sont quand même pas tout à fait des biens comme les autres. Tel a été le sens de la modification par la loi du 6 janvier 1999 des articles 524 et 528 du Code civil. Depuis cette réforme, les animaux sont distingués des objets, qui sont les autres immeubles par destination, et des corps qui peuvent se transporter d'un lieu à l'autre, qui sont les autres meubles. L'intention était louable et ses promoteurs doivent être félicités pour avoir fait changer l'approche des animaux par le Code civil pour la première fois depuis 1804. Seulement, le résultat a été contre-productif. Sinon catastrophique. En effet, en nommant expressément les animaux pour les distinguer des autres biens, le législateur de 1999 a dit plus clairement encore qu'on ne l'avait dit en 1804 que les animaux sont des immeubles ou des meubles, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à une des deux catégories entre les biens se répartissent d'après l'article 516 du Code civil. Le remède aura été pire que le mal. Aussi, tirant les leçons de cette amère expérience, Madame Suzanne Antoine a proposé d'ajouter à la catégorie des meubles et à celle des immeubles une troisième catégorie de biens, des biens protégés, dont feraient partie les animaux avec quelques voisins venus des sciences du vivant. Dans le même esprit, Madame Sonia Dumoulin, dans sa thèse exemplaire intitulée « L'animal entre science et droit », prône une conception renouvelée de l'ordre public qui supposerait de repenser la structure du droit des biens pour y intégrer des règles spécifiques aux animaux. Ces propositions ont le mérite d'essayer d'améliorer le statut juridique des animaux sans faire de vagues, c'est-à-dire sans heurter les habitudes qui conduisent à attribuer les compétences relatives aux questions animalières au ministère de l'Agriculture, voire au ministère de la Recherche, comme si elles n'intéressaient pas l'ensemble de la société. Elles ne sont évidemment pas adaptées à la dimension sociétale de la question. Il faut d'ailleurs reconnaître à Madame Suzanne Antoine le rare et noble mérite d'avoir fait passer sa propre proposition en second lieu dans le rapport sur le régime juridique de l'animal qu'elle a remis au garde des Sceaux le 10 mai 2005. Tout porte en effet à croire que pour aboutir à une modification significative du statut juridique de l'animal, statut juridique dont la modification ne serait plus subordonnée à la bénédiction préalable du lobby des éleveurs et des gardiens de la tradition scientifique héritée de Magendy et de Claude Bernard, sans parler de celle des prescripteurs intransigeants des abattages rituels, il est nécessaire d'extraire les animaux de la catégorie des biens. Extraire les animaux de la catégorie des biens, comme l'ont fait, dans des conditions démocratiquement exemplaires, nos voisins suisses, dont chacun sait ici que leur code civil affirme depuis le 1er avril 2004, en son article 641A, que les animaux ne sont pas des choses. S'ils ne sont pas des choses, s'ils ne sont plus des biens, que sont-ils devenus ? Certains proposent de les inscrire dans une catégorie intermédiaire entre les personnes et les biens. Jusque-là, il y a une division traditionnelle, les personnes d'un côté, les biens de l'autre, et rien au milieu. Eh bien, un certain nombre d'auteurs proposent d'inscrire les animaux dans une nouvelle catégorie intermédiaire entre les personnes et les biens. Telle est l'idée de Mme Jordan Segura, exprimée dans sa thèse intitulée « Animaux et droits de la diversité de la protection à la recherche d'un statut », soutenue à Nancy en 2006. Telle est surtout le point de vue du professeur Gérard Farja, magistralement étayé dans un article intitulé « Entre les personnes et les choses, les centres d'intérêt », publié à la revue trimestrielle Droit civil en 2003. Ces propositions sont elles aussi passionnantes et pourraient entraîner une modification significative du statut de l'animal, mais il leur manque un maillon qu'il faudrait patiemment construire pour qu'elles puissent franchir le cap de l'effectivité. Je vous l'ai dit, il y a deux catégories, les personnes, les biens. Les relations vis-à-vis d'une chose, on sait comment ça marche, ce sont les droits réels, le droit de propriété dont nous reparlerons. Les relations entre les personnes, on sait aussi comment c'est organisé. Mais les relations à l'égard de quelque chose qui figure dans une catégorie intermédiaire, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et je ne dis pas que ça ne fonctionnera pas, mais il faudra créer des outils nouveau, adapté à la création de cette nouvelle catégorie juridique. Alors, en attendant de compléter la boîte à outils, il est plus raisonnable de franchir courageusement le pas et de promouvoir résolument les animaux dans la catégorie des personnes, c'est-à-dire des sujets de droit. Aussi aurait-il véritablement des droits. Encore faut-il savoir de quel type de personnalité juridique, il devrait être revêtu, parce que même chez les juristes, quand on parle de personnalité juridique, on ne parle pas toujours ni même souvent de la même chose. Il faut donc commencer par choisir le modèle de personnalité juridique qu'il conviendrait de retenir. Et une fois ce choix retenu, il faudra réfuter les objections qui, avec plus ou moins de conviction, ont été adressées à la mise en place d'une personnalité juridique des animaux. Il y aura comme deux parties, parce que les juristes sont incorrigibles de ce point de vue-là. Ce sont toujours des plans en deux parties, ça fait rire tout le monde. Les collègues du monde anglo-saxon disent chaque fois « Ah, mais nous, il n'y a que les matchs de football qu'on divise en deux parties ». Bon, des fois, il y a des prolongations, mais elles sont elles-mêmes divisées en deux parties, à moins qu'il y ait le but qui tue, là, je ne sais plus comment ça s'appelait. Enfin, bref, vous aurez... Pardon, le but en or. Vous savez, l'or footballistique, nous, comme la Belgique, ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu parler. Donc, vous aurez deux parties. La première, donc, le choix d'un modèle de personnalité juridique adapté aux animaux. Et deuxième partie, si vous m'en laissez le temps, la réfutation des objections à la mise en place de la personnalité animale. Première partie, donc, le choix d'un modèle de personnalité juridique adapté aux animaux. Il est possible de conférer la personnalité juridique aux animaux par référence à la personnalité juridique des êtres humains. Il est plus probable qu'une personnalité plus technique, fabriquée par imitation de la personnalité morale, serait de meilleur aloi. Nous verrons donc... Alors, attention, ça va se compliquer parce que là, il va y avoir deux sous-parties. Nous verrons donc les personnifications que l'on pourrait appeler les personnifications anthropo-connectées et la personnification technique des animaux. Les personnifications anthropo-connectées. On peut être tenté de donner aux animaux la même personnalité juridique qu'aux hommes, soit pour les protéger aussi bien que les hommes et comme les hommes, soit pour aider à mieux protéger les hommes. Dans le premier cas, on pourrait parler de personnification anthropomorphique et dans le second, de personnification anthropocentrique. La personnification anthropomorphique, elle a trouvé sa plus belle expression dans la Déclaration universelle des droits de l'animal proclamée à l'UNESCO le 15 octobre 1900, je ne sais plus, c'était 1978, qui était calée sur la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, et il y avait même dans cette Déclaration universelle des droits de l'animal un article qui affirmait très solennellement que les droits de l'animal doivent être protégés au même titre que les droits de l'homme, ce qui allait tellement loin qu'une seconde version de la Déclaration universelle des droits de l'animal qui a été peaufinée en 1992, je crois, a soigneusement gobé cet aspect-là. La personnification en anthropomorphique est aussi défendu par un certain nombre d'auteurs, notamment Tom Regan, ce qui amène à condamner le spécisme, ce qui amène à condamner tous ceux qui protégeraient davantage les chiens et les chats domestiques dans de meilleures conditions que les tigres mangeurs d'hommes ou les alligators géants, les moustiques ou les puces. Donc cette personnification anthropomorphique, je ne suis pas tellement pour. Parce que les adversaires de toute reconnaissance de droit en faveur de l'animal ont des occasions multiples de se moquer, parce qu'on peut, si on met sur le même plan que l'homme, tous les animaux sans distinction, on peut se lancer dans des plaisanteries à n'en plus finir. J'avais participé l'année dernière avec Florence Burga au Mans à un colloque organisé par Le Monde, je ne sais plus qui sont les animaux, et il y avait un philosophe qui s'appelle Wolf, je ne sais plus quel est son prénom. Alors, avec ses personnifications anthropomorphiques, il en a fait des tonnes pendant 20 minutes. Et c'est trop facile. Donc, la personnification anthropomorphique qui prête à ce genre de plaisanterie, c'est pas très bon. C'est pas très bon pour les animaux non plus, parce que la personnification anthropomorphique, ça supposerait qu'on leur donne autant de devoirs que de droit. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, c'est peut-être pas ça le mieux. Il y a aussi, à l'opposé, la personnification anthropocentrique. Là, je citerai deux auteurs. Le premier, c'est mon ami, le professeur Xavier Labbé, qui est à la fois professeur et avocat à Lille. Et à Lille, il s'est spécialisé dans l'utilisation du code civil comme boîte à outils pour porter devant les juridictions les questions les plus bizarres qui concernent le corps humain, qui concernent les agneaux. Alors Xavier Labbé, c'est assez paradoxal parce qu'il est tout à fait contre la personnification juridique des animaux. Ça lui fait horreur. Mais seulement, dans son activité d'avocat, il a inventé ce qu'on appelait le chien prothèse, le chien guide de non-voyants, qui mérite une protection juridique renforcée. Alors, pour arriver à protéger le chien guide de non-voyants, il a proposé, et je crois qu'il était presque parvenu devant le tribunal de grande instance de Lille, à le faire protéger comme un certain arrêt célèbre avait protégé le dentier. Le dentier, c'est la personnification par accessoire. Le dentier était devenu, était incorporé à la personne humaine, parce que le dentiste n'avait pas été payé, il voulait faire arracher le dentier pour... bref, oui. Donc, personnification du dentier incorporé à la personne humaine. Eh bien, Xavier Labbé était parvenu à faire admettre l'idée que pour mieux protéger l'homme, il fallait considérer que le chien, qui était son guide essentiel, était un prolongement de sa personne. Et là, Xavier Labbé, mon collègue ami, était vraiment bien parti, parce que pourquoi s'arrêter aux chiens guides de non-voyants? Tous les chiens et les chats qui ont un rôle essentiel pour les carences affectives, c'était un personnificateur, c'est toujours un personnificateur anthropocentrique sans le vouloir. Donc oui, c'est intéressant comme thèse. Il y a aussi celle de mon collègue Rémi Liebschaber, qui a publié un article à la revue trimestrielle Droit civil 2001, page 239, un article intitulé « Perspectives sur le statut juridique de l'animal » qui évoque la tentation d'élever l'ensemble du vivant en catégorie juridique nouvelle et de le faire bénéficier d'une protection forte comparable à celle qu'assurent les droits de l'homme aujourd'hui. Dans cette perspective, alors, il y aurait une grande catégorie, tout le vivant, et tout le vivant serait également protégé de la manière la plus forte qui soit, c'est-à-dire les droits fondamentaux ou les droits de l'homme qui sont reconnus aux êtres humains. Alors, dans cette perspective, la réévaluation des droits de l'animal ne découlerait plus de la protection de l'animal en tant que tel, mais de la volonté de protéger plus efficacement l'homme exposé en raison de sa proximité avec l'ensemble du vivant. À l'évidence, cette belle vision théorique manque d'achèvement du point de vue de l'effectivité, d'où la préférence pour la personnification technique. Alors, la personnification technique, bon, c'est un peu ma thèse, tant pis. Ah, j'ai oublié de l'amener pour la brandir. Je m'en suis tenu à la revue semestrielle de droite animalier. Donc, c'est une thèse, une opinion qui part d'un grand juriste français qui est moins connu que le doyen Carbonnier, qui est moins connu que Plagnol, que Ripert, mais qui est juste après, c'était René de Mogue. René de Mogue ne dira pas grand-chose aux non-juristes qui sont ici, mais pour les juristes, c'est lui qui a inventé, qui a forgé la distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultats, sur lequel tout le droit du contrat, l'équilibre de tout le droit du contrat repose. Il avait également dit que le contrat est un organisme vivant, ce qui est à l'origine de tout un courant qu'on appelle le solidarisme contractuel. Donc c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement important. Et il avait écrit en 1909 à la revue trimestrielle droit civil un article fabuleux qui s'appelle « La notion de sujet de droit ». Et il y a quelques phrases que j'ai retenues, que je tiens absolument à citer pour bien marquer le personnage et la force de ses idées. Alors, il disait, par exemple, « L'enfant, le fou curable ou incurable, peuvent être des sujets de droit, car ils peuvent souffrir. L'animal même peut l'être. Il peut se trouver bénéficiaire d'un legs ayant comme doux des réactions psychiques douloureuses ou agréables. J'indiquerai même, à ce point de vue, ne voulant pas y insister, qu'envisagé de cette façon, le droit apparaît comme une chose infiniment belle, comme étant en quelque sorte la communion, le terrain de rapprochement, aussi des luttes, hélas, de ceux qui peuvent souffrir. Le droit apparaît comme un immense syndicat de lutte contre les souffrances entre tous les êtres qui sont pitoyables parce qu'il peut leur être fait du mal, beaucoup de mal, bien qu'ils soient souvent, par la force même des choses, les artisans de leur propre malheur. Le droit, cette chose toute intellectuelle en apparence, attire donc par des attaches très étroites qu'il a dans son but avec les facultés émotionnelles. Et pour inciter des lycéens en classe de terminale à s'inscrire en première année de droit, je crois qu'il faudrait leur lire systématiquement ce passage de René de Mogue, parce que c'est vraiment le droit autrement qu'on le voit d'habitude. Et il avait aussi envisagé directement la question de la personnification des animaux d'un point de vue purement technique. Et je le cite encore, « Mais pourquoi limiter l'application du droit à l'humanité ? Ici, tout le monde, sauf de rares exceptions, se crie, faire de l'animal, faire de l'animal un sujet de droit, quelle horreur, quelle abomination ! Entendre ces cris, ne semblerait-il pas qu'il s'agit de leur donner quelques décorations et d'imiter Héliogabale faisant son cheval consul ? Mais il ne s'agit pas de cela. Ceux qui font ces critiques ou ont ces sourires placent la question sur un terrain qui n'est pas le sien. Il s'agit simplement de poser une règle technique. Est-il commode pour centraliser des résultats souhaitables de considérer même les animaux comme des sujets de droit ? Et il avait préciser par ailleurs que, selon lui, la qualité de sujet de droit appartient aux intérêts que les hommes vivant en société reconnaissent suffisamment importants pour les protéger par le procédé technique de la personnalité. Eh bien, la question, c'est celle-là. Est-il plus commode d'apporter aux animaux la protection que l'évolution de la société a rendue nécessaire, de leur conférer une personnalité juridique envisagée comme une personnalité technique ? Eh bien, à mon avis, la réponse est oui, elle peut s'inspirer de Mogue, elle peut s'inspirer aussi des travaux d'un autre juriste grenoblois qui s'appelait Léon Michoux, qui avait écrit sur la personnalité morale et dont les idées avaient été consacrées par un très célèbre arrêt de la Cour de cassation de 1954 sur les comités d'établissement de Saint-Chamond. Il faut que j'entre un petit peu dans la technique. Vous allez voir, ça va pas durer, mais c'est important pour comprendre d'où l'on vient et où on peut aller. Il y a la question des personnes morales. Vous avez tous entendu parler des personnes morales, des associations, des sociétés, des syndicats, etc., etc. Elles ont la personnalité juridique sans que ça émeuve personne. Et s'était posée une grave question. Ça a été tout un débat doctrinal qui n'est même pas encore tout à fait achevé, sur le point de savoir de quoi dépend la reconnaissance de la personnalité juridique à une personne morale, qui est souvent un groupement de personnes. Et là, il y avait les tenants de la fiction, et considérant que la personnalité juridique dépendait exclusivement de la volonté du législateur. Et il y avait les tenants de la réalité, considérant qu'à partir du moment où un certain nombre de conditions étaient réunies, des groupements pouvaient avoir la personnalité juridique, même si le législateur ne leur avait pas expressément conféré. Et la question s'est posée au lendemain de la Libération, lorsque le législateur a créé les comités d'entreprise et les comités d'établissement. Et il avait expressément reconnu la personnalité juridique au comité d'entreprise, au comité des... d'entreprise, oui, pardon. Mais rien sur les comités d'établissement qui répondent à des structures d'entreprise un peu délocalisées. Et la question était grave de savoir si les comités d'établissement pouvaient avoir la personnalité juridique alors que le législateur ne leur avait pas expressément attribué. Eh bien, l'arrêt comité d'établissement de Saint-Chamond a appliqué, grosso modo, la thèse de Léon Michou et a dit les comités d'établissement ont la personnalité juridique, parce que deux conditions essentielles sont remplies. Ils ont un intérêt propre et distinct, et il existe des organes pour assurer leur représentation sur la scène juridique. À partir du moment où ces deux conditions sont satisfaites, le groupement en question est une personne au regard du droit, même si le législateur ne l'a pas dit. Eh bien, je considère que l'on peut tenir exactement le même raisonnement à l'égard des animaux. Et on peut le tenir d'ores et déjà à l'égard des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une révolution théorique et juridique qui date du 7 septembre 1959, lorsque un décret signé du garde des Sceaux Edmond Bichelet a abrogé la loi Gramont. La loi Gramont, vous le savez tous mieux que moi, elle sanctionnait les mauvais traitements envers les animaux domestiques, mais à la condition expresse que ces mauvais traitements aient été infligés publiquement. Ce n'était d'ailleurs pas le général Delmas de Gramont qui avait proposé ça, c'était un député qui s'appelait De Fontaine qui avait présenté un amendement qui avait complètement mis de côté ce que le général Gramont avait proposé, et c'était subordonné à ce que les mauvais traitements sanctionnés très modestement par la loi pénale aient été exercés publiquement. Eh bien, cette condition de publicité a été supprimée par le décret du 7 septembre 1959, si bien que depuis, l'animal est protégé pour lui-même en raison de sa propre sensibilité. C'est l'intérêt propre qui est de l'animal qui est protégé. Et ça s'est multiplié ensuite avec la loi de 1963 qui instituait le délit d'acte de cruauté et ainsi de suite. Donc l'intérêt propre, distinct de l'animal, intérêt qui s'oppose, il faut le souligner, aux prérogatives du propriétaire. J'y reviendrai sans doute tout à l'heure. L'animal serait le seul cas dans lequel la chose appropriée est protégée pour elle-même contre son propre propriétaire. C'est de point de vue juridique, on y reviendra peut-être ou peut-être pas, parce que l'heure avance, je ne sais plus où j'en suis là. L'heure avance toujours, hein, de toute façon, ça n'a rien de nouveau. Hein. Une dizaine de... Bon, 10, 15. Bien, donc... oui, alors la démonstration, c'est que les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, qui sont dans le champ de la répression des mauvais traitements, des actes de cruauté, des sévices graves, etc., etc., sont protégés pour eux-mêmes. Ils ont un intérêt propre. Ils ont aussi des organes pour les défendre sur la scène juridique. Et où est-ce qu'on les trouve ? On les trouve dans l'article 2-13 du Code de procédure pénale qui reconnaît aux associations de défense des, et de protection des animaux déclarées depuis au moins 5 ans les droits attribués à la partie civile en matière d'infractions qui concernent les mauvais traitements, les actes de cruauté, les sévices graves et les atteintes volontaires à la vie des animaux. Donc les conditions sont réunies. Intérêt propre, organe pour les représenter, il n'y a absolument rien qui empêche de considérer que les animaux apprivoisés, tenus en captivité et domestiques sont des personnes tout autant que le sont les syndicats, les associations ou les comités d'établissement. Et ça obéirait même à une nécessité de logique juridique. Ça n'apporterait sans doute pas grand-chose, mais on y reviendra aux animaux. Mais du point de vue de la logique juridique, il y a quelque chose, je vous l'annonçais déjà tout à l'heure, si les animaux sont protégés dans leur propre intérêt, y compris contre leur propriétaire lui-même, eh bien, on ne peut plus bien comprendre qu'ils fassent l'objet d'un droit de propriété. Le droit de propriété, c'est un droit réel. Ce qui est la caractéristique du droit réel, c'est qu'il confère des prérogatives immédiates et directes sur la chose appropriée. Là où il est le lien immédiat et direct sur l'animal, à partir du moment où l'animal est protégé pour lui-même contre le propriétaire. Et il y a quelque chose qui ne va plus. Et l'animal n'est plus soumis au droit de propriété. Il y a d'ailleurs eu une thèse soutenue à Limoges il y a 2 ans par Mme Lucille Boisseau-Sauvinski qui s'appelle « La désappropriation de l'animal » qui met bien en évidence cette aporie. Alors si les animaux domestiques apprivoisés ou tenus en captivité ne sont plus soumis aux droits de propriété, ils ne sont plus des choses, et s'ils ne sont plus des choses, il y a toutes les chances pour que ce soit devenu des personnes, même sans qu'on s'en soit rendu compte. Alors cette transposition aux animaux de la théorie de la personnalité juridique prévue pour les personnes morales ne va pas sans effort d'adaptation, parce que les personnes morales, ce qui les caractérise, ce sont des êtres abstraits qui ne souffrent jamais, alors que les animaux, ce sont des êtres qui ne peuvent que souffrir. Donc c'est, bon, mais c'est une structure inversée qui n'est pas tellement difficile à mettre en place, parce que ce qui est le fondement de la transposition, c'est l'intérêt propre et distinct. Et l'intérêt propre, distinct d'un animal, il est beaucoup plus homogène que l'est l'intérêt de certaines personnes morales qui sont toujours plus ou moins tiraillées entre plusieurs tendances des représentants du groupe. Je crois que la personnalité juridique de l'animal, ça peut se faire, c'est même déjà fait pratiquement, et puis ça permettrait de faire varier la protection en fonction du moment, en fonction des animaux. J'en reviens à ce que disait De Mogg, la qualité de sujet de droit appartient aux intérêts que les hommes vivant en société reconnaissent suffisamment importants pour les protéger par le procédé technique de la personnalité. À un moment donné, la société ne considère peut-être pas qu'il faut protéger de la même manière les puces et les chiens. Alors, bon, c'est une théorie affreusement spéciste. Mais c'est une thèse modérée, gentille et douce. Elle ne s'en est pas moins attirée des critiques d'une violence extrême que je vais m'efforcer, si vous m'en laissez le temps, de réfuter en quelques minutes. Deuxième partie, la réfutation des objections à la mise en œuvre de la personnalité animale. La personnalité animale étant la transposition aux animaux de la personnalité technique des personnes morales. Alors, il y a toute une série de critiques, des critiques qu'on pourrait qualifier d'axiologiques et d'autres de techniques. La première technique axiologique, c'est celle que je viens d'évoquer à l'instant, c'est celle qui tient à la discrimination entre les animaux. Bon, le spécisme, moi je l'assume. Alors il y a une autre critique qui a été adressée à cette thèse qui consiste à dire, ah oui, mais c'est privilégier les animaux domestiques apprivoisés ou tenus en captivité. Attention, ce que j'ai soutenu, c'est que les animaux domestiques apprivoisés ou tenus en captivité remplissent déjà les conditions. Mais je n'ai jamais dit que les animaux sauvages ne devraient pas remplir les conditions, et je n'ai jamais dit que le Parlement français devrait être toujours à la merci du lobby des chasseurs et devrait toujours s'entêter à refuser la proposition de Roland de Gesser dans les années 1970-1980 qui tendait à étendre la protection contre les actes de cruauté, y compris aux animaux, au gibier. Là, je crois qu'il y a des blocages, hein, mais ce n'est pas moi. Et aller voir du côté du lobby des chasseurs. Moi, je suis tout à fait d'accord pour que les cerfs, les biches, les sangliers, les lièvres soient protégés pour eux-mêmes si on mettait en place une législation, si on leur étendait tout simplement la protection contre les actes de cruauté. Donc voilà pour cet argument-là. Autre argument, ça nous renvoie un peu à la querelle des devoirs. On reproche à cette théorie de conférer une personnalité hémiplégique avec que des droits et pas de devoirs. Eh bien là, cette question des devoirs me préoccupe beaucoup par ailleurs en tant que spécialiste, je ne sais pas si le mot est bienvenu, mais quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux droits de l'homme et les devoirs de l'homme d'une manière générale, c'est la négation même des droits de l'homme. Encore faut-il savoir envers qui on a des devoirs. S'il s'agit d'avoir des devoirs envers autrui, envers les autres, c'est la moindre des choses. Ce qui est extrêmement dangereux et ce qui est la marque de tous les régimes totalitaires, ce sont les devoirs envers les entités abstraites. Les devoirs de l'homme mènent directement, au moins pire, vers le chemin des dames. Mais ça mène encore plus loin que ça, parce que les devoirs de l'homme, c'est la fameuse formule de Jules Romain rappelée par Sartre, « Je n'ai le droit que de faire mon devoir ». Eh bien, ça conduit à transformer l'individu en moyen. Et à partir de là, on voit où on peut aller. Donc la question des devoirs... Il y a une espèce de mode, ah oui, mais si on a des droits, il faut avoir des devoirs. Ça s'est retrouvé dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a cru intelligent d'affirmer que la reconnaissance des droits garantis par la Charte s'accompagne de devoirs envers autrui, ça c'est bien la moindre des choses, mais aussi envers la communauté humaine. Et les générations futures. Pour les générations futures, je suis d'accord lorsqu'il s'agit lorsqu'elles sont déjà concrètes, c'est-à-dire nos enfants ou petits-enfants, suivant la tranche d'âge à laquelle nous appartenons, qui sont déjà là. Mais les générations futures, celles qui apparaîtront 350 ans après que nous serons tous morts, je ne vois pas trop. C'est un peu trop abstrait pour ne pas être dangereux. Et la communauté humaine. Enfin bref, les devoirs. Ça m'énerve, les devoirs de l'homme. Parce qu'il y a là tous les dangers possibles et imaginables. Alors, pour revenir à la question des animaux, et les animaux, vous leur donnez une personnalité juridique, ils n'auraient pas de devoirs. Mais qui a dit que les devoirs étaient de l'essence de la personnalité juridique, même des êtres humains? Le nouveau-né. Il a la personnalité juridique dès sa naissance, dès lors qu'il naît vivant et viable. Où sont ses devoirs? Ça ne va plus, le nourrisson, les devoirs de... Ah oui, mais ça ne va pas durer. Oui, ça ne va pas durer, mais malheureusement, pour certains, ça dure. Il y en a qui naissent en état végétatif et ils ont des droits, bien évidemment. Et leurs devoirs, où sont-ils? C'est très dangereux, cette idée-là, parce que si on refusait des droits aux animaux sous prétexte qu'ils ne peuvent pas avoir de devoirs, on en arriverait logiquement à la conclusion qui avait été tirée par le plus grand professeur de droit public de la France du XXe siècle, le bordelais Léon Duguit, le grand pourfendeur des droits subjectifs, qui en était arrivé à la conclusion que les malades mentaux n'avaient pas plus la personnalité juridique que les animaux, parce qu'ils ne pouvaient pas plus réfléchir. Donc là, le terrain des devoirs, ça me paraît un petit peu dangereux pour contester l'attribution, la reconnaissance de la personnalité juridique aux animaux. Et puis, il y a eu un certain nombre d'objections techniques. D'abord, on dit, ah oui, mais ben, y a bien d'autres biens qui sont protégés dans leur propre intérêt et qui pourtant ne sont pas des personnes, les monuments historiques. Non, mais ça ne va plus, les monuments historiques, quel est leur intérêt? Vous avez vu pleurer un monument historique? Et, ça et puis la différence avec un animal, en plus, c'est que ça dure longtemps, un monument historique, alors qu'un animal, ça, par l'éléphant et le perroquet, ça ne va pas s'éterniser, quoi. C'est à peu près certain. Alors quand la protection des monuments historiques, là, ça serait peut-être plutôt la protection des générations futures, de pouvoir les admirer, mais ce n'est pas la protection du monument historique pour lui-même, comme l'animal. Et puis, il y a la question de... Ah oui, mais ça ne sert à rien, la personnalité juridique de l'animal, la personnalité morale, ça ne sert à rien, puisqu'il y a déjà des législations protectrices qui se sont multipliées, qui ont conféré des devoirs aux hommes envers les animaux, et il n'y a pas besoin de la personnalité juridique pour arriver à ces heureux résultats. C'est possible. C'est possible, sauf que dans tout système juridique, la clé de tout, c'est l'interprétation. Un texte juridique, quel qu'il soit, ne serait-ce qu'un contrat, ce qui est la clé de sa portée, de son effectivité, c'est le sens qui lui est donné, c'est l'interprétation qui est donnée par le juge, dont un auteur belge, François Rigaud, a dit qu'il était le ministre du sens. Eh bien, je prétends que dans deux systèmes juridiques ayant exactement dans les textes le même niveau de protection des animaux, l'interprétation de ces textes équivalents ne sera pas faite du tout de la même manière dans un système qui dira, comme nous le disons encore, les animaux sont des biens, et dans un système qui reconnaîtrait que les animaux sont des personnes. Ça, c'est, à mon avis, c'est la clé herméneutique qui peut donner la portée maximum aux règles protectrices des animaux et reconnaître aux animaux qu'ils ont une personnalité technique, ce serait déverrouiller le débat sur un certain nombre de questions. Combien de questions graves sont passées relativement sous silence, parce que, après tout, ce ne sont que des animaux, ce ne sont que des choses, ce ne sont que des biens. Je ne vais pas revenir sur le débat sur l'expérimentation. On pourrait ouvrir le débat sur l'abattage rituel. Il me semble que les débats ne seraient pas du tout orientés de la même manière si l'on admettait que les animaux ont une personnalité juridique, pas anthropomorphique, bien sûr, mais comme les personnes morales. D'ailleurs, ma théorie vient de recevoir un appui de poids d'un auteur que je connais bien, qui s'appelle Muriel Fabre-Magnan, qui vient de sortir un ouvrage d'introduction au droit, d'introduction générale dans la collection Que sais-je, qui est farouchement hostile à la personnification des animaux et qui écrit, je crois, à la page 103 de son... C'est à cheval... À la fin de la page 102, le début de la page 103, vous voyez comme un juriste est précis, et Muriel Fabre-Magnan écrit « Il n'est nul besoin de donner des droits aux animaux pour imposer aux êtres humains des devoirs envers eux, même si, à titre militant, la qualification peut contribuer à faire prendre conscience des progrès à faire en la matière. » Eh bien, si même Muriel Fabre-Magnan reconnaît que la personnification des animaux peut contribuer à faire prendre conscience des progrès à faire en la matière des expérimentations, des abattages rituels, de la corrida, de la chasse à cour, eh bien, c'est que ça doit marcher. Je vous remercie de votre patience et de votre indulgence.
Merci pour cette excellente leçon de droit, teintée d'humour en plus, ce qui permet de faire passer
les choses. Je fais rire souvent, mais la plupart du temps, je ne le fais pas exprès.
Bien. Je pense que votre exposé a suscité un certain nombre de questions.
Merci. Je souscris à l'essentiel de ce que vous avez dit, bien sûr. Je suis très favorable à ces thèses-là. Il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous. Je n'ai pas la même lecture que vous de la Déclaration universelle des droits de l'animal, notamment dans sa dernière version, bien sûr, remaniée, améliorée, la version de 1989. J'ai une lecture qui n'est pas du tout anthropocentrée, pas du tout anthropomorphique, pardon. Clairement, cette déclaration...
Pourquoi le lapsus, alors ?
Pardon ?
Pourquoi le lapsus, alors ?
Non, mais alors, pardonnez-moi. Lapsus, pardon. Mais donc, en aucun cas, cette déclaration ne demande des devoirs aux animaux. Et dans les explications, les attendus de la déclaration, il est clairement dit que l'on distingue les droits de l'animal et les droits de l'homme. En aucun cas, elle est anthropomorphique. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est le truc que j'ai, qu'après tout, qui pourrait être anecdotique, c'est que je suis partisan de cette déclaration, et en aucun cas je ne m'oppose à vos thèses. En d'autres termes, je pense qu'elle est parfaitement compatible avec la requête que vous avez faite d'une personnalité animale sur des normes techniques, plutôt personnalité morale. En d'autres termes, je suis d'accord avec vous, bien que défendant la déclaration des droits de l'animal.
Oui, mais moi, c'est la critique porte surtout sur la première version, parce que dans la première version, il était bien écrit que... donc, nous sommes d'accord. Grâce à une modification intervenue...
C'est bien pour ça que la déclaration a été modifiée.
Oui.
Une version corrigée a été publiée en
92 ou 9, ou peut-être, oui, enfin... Bon, et bien alors...
Mais ce qu'il faut voir dans ce sujet-là, c'est nécessairement la stimulation par des échanges, par des écrits, par des conférences, d'une pensée qui évolue, qui progresse, et qu'il faut bien que de temps en temps, il y ait un acte, une espèce d'acte fondateur, à partir de quoi les réflexions se poursuivent.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Après quoi, il y a eu des déclarations. De la même façon que pour la personnalité juridique, il y a aussi des conceptions différentes. On arrive maintenant à la vôtre, qui me semble effectivement extrêmement porteuse, plus que les deux solutions même proposées par Suzanne Antoine. Mais tout ça procède d'une réflexion commune, d'échange, et effectivement, on arrive de plus en plus à cerner le problème et à voir quelle va être la solution la plus efficace, la plus efficiente, la plus rapide, etc.
Et ça montre bien que le temps du droit n'est pas le temps médiatique. Ouais. Donc il faut du temps pour que les idées avancent et que... Il nous a fallu 15 ans. 15 ans pour arriver à un résultat.
Simplement à une modification absolument bâtarde et sans aucun intérêt qui n'a rien à voir avec ce qui était demandé. Mais pour avoir participé à des rendez-vous au niveau des commissions des lois, du Sénat, de l'Assemblée nationale, des présidents de commission, ça a été sans arrêt des obstacles pour arriver à ce piètre résultat. Mais ça aussi, c'est une étape.
C'est, oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, j'ai bien dit que ceux qui étaient à l'origine n'avaient bien fait parce que ça avait commencé à faire bouger un peu les choses de manière tâtonne, brouillonne et finalement contre-productive. Mais il y a une fissure qui a commencé à apparaître et maintenant, il faudra sans doute l'élargir.
Bien, moi, je vous remercie vraiment de votre intervention parce qu'elle éclaire beaucoup de choses pour moi, même s'il y a des tas de points sur lesquels j'aimerais discuter. Et je me disais, en écoutant votre citation de Moog, qu'au sortir de mes études secondaires, si je l'avais écouté, je n'aurais pas fait psycho, mais droit. Et je me suis posé la question en vous écoutant.
Mais vous ne regrettez pas d'avoir fait psycho quand même.
C'est vrai qu'il y a quelque chose sur quoi je voudrais revenir, c'est lorsque, dans votre conclusion, vous dites la clé de tout en droit, c'est l'interprétation et le sens. Si ça n'était qu'en droit.
Oui,
mais en psychologie, nous ne voyons que de ça. Vous avez interprété le lapsus de M. Chapoutier.
Non, mais je ne peux pas m'empêcher.
La religion est une question d'interprétation. Les textes religieux passent leur temps à être interprétés. En politique, n'en parlons pas, les lapsus qui ont eu lieu ces derniers temps en politique. Bref, l'art, j'étais au musée de Guggenheim, l'art n'intéresse les humains que parce qu'on en cherche l'interprétation, qu'on cherche à lui donner du sens. Et le débat que vous avez et que vous menez pour certains depuis des années, il tient à ce statut particulier de l'être humain qui est d'interpréter en permanence le monde qui l'entoure, de lui donner du sens. Et c'est peut-être ça qui, pour moi, fondamentalement, le distingue de l'animal. Alors, Votre proposition, moi, elle m'intéresse beaucoup parce que la personnalité, quand on est psychologue, c'est pas du tout le même mot et ça n'est pas du tout le même sens qu'on lui donne. Mais entendre la perspective de donner à l'animal un statut de personnalité juridique, ça m'intéresse parce que ça incite l'être humain à s'interroger sur le rapport qu'il a à l'animal et le sens qu'il lui donne. Et c'est vrai que le fait de délimiter parmi les animaux ceux qui relèveraient du droit, ceux qui n'en relèveraient pas, ça nous oblige à débattre, ça nous oblige à discuter et ça nous oblige à interpréter la relation que nous avons les uns et les autres, que ce soit dans le domaine scientifique ou que ce soit dans le domaine privé et profane. Ça nous oblige à discuter de la relation et le sens que nous donnons à notre lien avec les animaux. Et vous aviez commencé par... La notion de dignité de l'animal, je crois que c'était un de vos collègues à vous qui proposait ça. La dignité de l'animal, moi, ça me va bien que les devoirs que nous aurions vis-à-vis des animaux, ce soit de respecter leur dignité. Après tout, pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'on va s'engager là aussi. Alors, la corrida, les chasseurs, je ne crois pas qu'il n'y ait que des lobbies. Il y a des chasseurs du dimanche aussi qui ne sont pas forcément référés à un lobby et qui estiment que c'est leur droit de pouvoir se livrer à ce sport.
Pour la dignité.
Qui sauvent la nature. Certains prennent argument du respect de la nature, y compris d'ailleurs pour ceux qui élèvent les taureaux pour les corridas.
Pour la dignité, je vous demande juste quelques mois de patience parce que l'auteur de la thèse en gestation qui est dans la salle va soutenir dans les 12 mois qui viennent. Et j'espère que cette thèse circulera comme elle le mérite déjà.
La fin de mon intervention sera humoristique, vous allez voir. Vous avez... Vous n'avez pas évoqué, je pense, l'aspect des animaux dits de consommation. Et, vous avez parlé d'abattage rituel, vous n'avez pas parlé d'autres formes d'abattage. Alors pourquoi c'est humoristique? C'est parce que je m'adresse à quelqu'un, à un limousin, et que donc vous êtes dans un environnement où il y a peut-être des lobbies très forts. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Est-ce que ça constituerait une catégorie juridique particulière?
Les animaux d'élevage?
Oui.
C'est dans la technique de personnalité juridique que je vous indiquais, il pourrait y avoir des statuts différenciés. Pour les personnes morales, il y a les associations, on distingue celles qui ont la grande personnalité et celles qui ont la petite personnalité. Pour les animaux, il pourrait y avoir un statut différencié selon qu'il s'agit d'animaux domestiques, d'animaux d'élevage. Pour les animaux d'élevage, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé il y a quelque temps, c'est un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Qui s'intéresse aussi quelquefois aux animaux et aux convictions de ceux qui défendent les animaux. Oui, mais je vais peut-être m'arrêter là, parce que si je commence à parler de cette affaire, je vais louper mon train. C'est à 14h08 et l'affaire a duré 8 ans. Oui, alors, oui. Mais il y a deux questions qui arrivent, donc peut-être que j'y reviendrai. Quelles que soient vos questions, je répondrai sur la
personne. D'accord. La première chose, c'est que j'admire l'inventivité du droit à l'égard des animaux et cette proposition, par exemple, que vous faites, que vous ne faites pas, donc vous citez un de vos collègues par rapport au faire, par exemple, de l'animal domestique une prothèse du corps humain. Mais en fait, je pense, j'avais tout de suite envie de dire, oh mon Dieu, quelle belle inventivité. Puis je pense aux conséquences, mais en fait, mon dentier, je peux le jeter. Et ça, le droit ne peut pas me l'interdire.
Oui, c'est bien pourquoi. Je suis contre la personnification anthropocentrique.
Voilà, c'est ça. Donc là, ça pose tout de suite un problème. Mm-hmm. Évidemment, on le voit, parce que en fait, c'est justement contre son propriétaire qu'il faudrait protéger l'animal domestique, et c'est le seul contre lequel il ne sera pas protégé. Et il y a une deuxième chose qui me semblait aussi, et ça vous le savez aussi bien que moi, mais c'est Donna Haraway qui m'a rendue attentive à cet aspect des choses, c'est qu'en fait, on était dans un terrain très dangereux avec cette inventivité du droit, parce que je ne peux pas m'empêcher toujours de voir, et quand on parle de certaines... Et je ne parle pas de la personnification, qui pour moi est une solution. La solution que vous proposez est une bonne solution. Mais les autres solutions, pro-life, etc., je ne peux pas m'empêcher, comme féministe, de toujours penser, ah tiens, mais quid de l'avortement, si c'est ainsi que ça arrive. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, si on protège, par exemple, l'animal, de certaines manières, on sait très bien que c'est l'avortement qui risque d'être soumis à des pressions législatives nouvelles. On encourage, par exemple, les mouvements pro-life.
Mmh. Il y a peut-être des choses qui pourraient vous intéresser dans la nouvelle directive. du Parlement européen que j'avais évoqué tout à l'heure. Dans la directive de 1986, il y avait une définition de l'animal. Elle est peut-être là. On entend par animal sans autre qualificatif tout vertébré vivant non humain, y compris les formes larvaires autonomes et ou capables de reproduction, mais à l'exclusion des autres formes fœtales ou embryonnaires. Il y avait une définition très précise de l'animal. Et dans la nouvelle directive, il n'y a plus de définition de l'animal. Pourquoi ? Eh bien, parce que le champ d'application a été étendu à un certain nombre d'invertébrés. Et pour les vertébrés, en tout cas pour les mammifères, la protection au titre des expérimentations animales s'étend au fœtus, au dernier tiers du développement. Et je ne sais pas si cette manière de protéger contre les expérimentations animales, les fœtus, les animaux, les mammifères, à partir du stade du dernier tiers du développement, ça ne pourrait pas avoir des incidences sur la question que vous évoquez. C'est pas incohérent. En tout cas, le critère qui est de plus en plus mis en, si j'ai bien lu, c'est l'aptitude à la souffrance, à la douleur. Et là, c'est un débat. Mais j'en parlerai demain à Toulon, là, comme je ne sais pas trop quoi dire. Oui, pardon. Oui.
Vous permettez, je reviens sur une allusion que vous avez faite tout à l'heure en parlant des fourmis ou en parlant des moustiques, montrant que dès qu'on entrait dans une espèce d'officialisation du droit animal pour le protéger, pour les protéger, il fallait faire attention à quel animal on s'adresse. Ça n'est pas seulement une affaire d'espèce. Bien entendu, les animaux qui sont dotés d'un système nerveux central pour lesquels il y a tout lieu de penser qu'ils ressentent la douleur et la souffrance, aucun problème. Ça n'est pas seulement un problème d'espèce. C'est aussi un problème de circonstances. Je m'explique en une seconde. Prenons un exemple banal. Qui n'a pas tué parce qu'il était menacé une guêpe ou qui n'a pas détruit un nid de guêpe parce que c'était éventuellement dangereux? Bon, on détruit les animaux. C'est un point. Mais prendre par exemple une guêpe, le même animal, et lui arracher les ailes par curiosité, c'est un acte de cruauté caractérisé. Donc ce n'est pas une affaire d'espèce, seulement d'espèce. C'est une affaire de circonstances. J'ai pris cet exemple parce qu'il est simple et parce qu'il est presque caricatural.
Vous avez tout à fait.
Mais on doit faire intervenir là-dedans le respect de l'intégrité physique de l'animal lui-même. Je parle là de l'animal sauvage, hein.
Même pour l'homme civilisé, ça joue aussi les circonstances. Ça s'appelle la légitime défense. Non, je vais vous laisser avec ma. Oui, non, mais j'ai ma réponse.
Oui, donc j'ai déjà entendu parler du droit de l'animal par la personne que vous avez citée, Doriane. Enfin, j'étais à Tours, qui a fait une thèse et qui l'a présentée.
Jordan Segura.
Voilà, oui. Excusez-moi, son nom m'avait échappé, mais donc qui avait une perception un petit peu nuancée par rapport à la vôtre, mais tout aussi intéressante. En fait, moi, la question que je me pose, et en vous écoutant, je me la pose encore plus, c'est qu'on a, et vous l'avez cité, là, tout un tas de directives, de réglementations, et qui confèrent à l'animal des statuts très différents, parfois opposés. Je citerai juste l'exemple que vous avez cité aussi, qui est l'animal faune, en fait, quand il passe du statut domestique à faune, c'est-à-dire on n'a pas le droit de tuer un animal aujourd'hui chez soi, etc., être cruel. À partir du moment où il passe la porte de chez soi, ça devient un animal sauvage. Donc c'est le même animal, par exemple, un oiseau quelconque qu'on élèverait à des fins de chasse. À partir du moment où il passe la porte, on peut lui tirer dessus, quoi. Donc moi, en fait, je me pose la question, est-ce que doter en fait l'animal d'une personnalité juridique permettrait d'harmoniser en fait l'ensemble des réglementations qui sont parfois complètement opposées, voire contradictoires, sans parler de ce qui est différent entre le code rural, les lois sur l'expérimentation animale, l'animal élevé à des fins de rente, l'animal domestique, etc.
La technique de la personnalité juridique pourrait y aider, mais là, il faut bien se rendre compte qu'on est face à des intérêts financiers, économiques, patrimoniaux extrêmement puissants et par ailleurs respectables, parce que ce sont des centaines et des milliers d'emplois qui sont souvent en jeu. Et les réglementations dans le code rural, par intermédiaire du ministère de l'Agriculture notamment, ça donne lieu à des tensions, à des blocages, à des menaces, à des chantages qui sont... concerne, donc ça ne va pas s'arranger du jour au lendemain, mais on le disait tout à l'heure avec le professeur Nouette, le temps du droit n'est pas le temps médiatique, il faut laisser petit à petit les choses se mettre en place pour qu'au bout d'un moment, les techniques auxquelles on a déjà réfléchi soient en adéquation avec les idées. Bien, je vais abandonner l'abattage rituel. C'est l'arrêt Veran gegen Tierfabriken Schweiz contre Suisse du 30 juin 2009. Il s'agissait d'une association de protection animale qui avait fait un spot publicitaire dénonçant les conditions de l'élevage en batterie et en assimilant ces conditions d'élevage au camp nazi. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Suisse parce qu'elle n'avait pas laissé diffuser spot, ce qui veut dire que la liberté d'expression des protecteurs des animaux peut choquer, heurter et déranger. Donc allez-y, lâchez-vous.
La communication peut être aussi impertinente que quand on communique sur les dangers du tabac. Hein, elle est aussi très très agressive contre les accidents de voiture, donc on peut en parler. Merci beaucoup, M. Marguenot. C'était une très belle matinée, vraiment, grâce à nos deux conférenciers. On fait une 10 minutes de pause. Je voulais indiquer aux auditeurs qu'il y a des livres à votre disposition uniquement pour consultation. Ils ne sont pas à la vente, mais vous pouvez les acheter chez les bons libraires de Poitiers. Merci à vous, à tout à l'heure.